Bonjour, je suis Steve.
Et moi, je suis Monsieur Nebunny.
Et vous écoutez Comic City. Épisode 42 des reviews des sorties françaises, fin du mois d'octobre, comme tous les podcasts de fin de mois, s'intéressant plus à la librairie, mais avec un petit peu de kiosque hein, quand même.
Ouais.
Et comme d'habitude, on va commencer par les news. Encore des nouvelles de chez Panini, qui nous apprend pas mal de futures sorties pour 2011.
Oui, leur catalogue, en fait, pour 2011.
Voilà, exactement. Il y aura 4 Spider-Man hors série prévus pour 2011, avec au menu les mini-séries American Son, Jackpot, Peter Parker et Black Cat.
Eh bien, faites des économies, puisque aucune des 4 n'est bonne. Voilà, suivant.
Bon, comme ça, c'est réglé. Marvel, les grandes sagas, c'est une nouvelle collection de type incontournable à partir d'avril. Voilà, c'est tout ce que l'on sait pour le moment.
D'accord, donc ce sera le même, a priori un format un peu semblable, quoi.
Peut-être. Je ne sais pas, il n'y a pas plus de précision pour le moment.
Ouais. Bon, on espère en tout cas que ce sera la même fourchette de prix, puisque les incontournables, rappelons-le, c'était en dessous de 10 euros, il me semble.
Ouais, c'est ça, je crois.
Pour quand même quelques histoires sympathiques.
Des bons reprints pour ceux qui ne les auraient pas.
Exactement, en format cartonné. Enfin, du moins, c'était le cas des incontournables. Alors maintenant, reste à voir ce que c'est ça.
On apprend aussi que DC Legacy, hein, anciennement, je ne sais plus ce que c'était, c'était DC Universe hors série, je crois. Non, même pas. Je sais même plus comment ça s'appelait avant DC Legacy. Bref, change encore de nom, et s'appellera finalement DC Heroes.
D'accord. Donc, après DC, bientôt il y aura DC Icons aussi, je crois, le mois prochain. Et dans 2 mois, ils ont prévu de faire un DC Universe Extra Plus Alpha 3.
Non, mais c'est vrai que franchement, changer les titres comme ça...
Moins Marvel Select, plus 3 Strange.
Alors est-ce parce qu'ils comptent publier, je sais pas, DC Universe Legacy un jour et que donc ils ont peur que ça fasse, je sais pas moi, un peu double emploi ou que les gens s'y perdent, j'en sais rien.
Bon, moi, je pense que c'est une question d'accroche. C'était moins accrocheur que... Les gens sont plus habitués à acheter du Marvel Heroes, donc DC Heroes.
Peut-être, ouais. Bon, en tout cas, c'est toujours le mois prochain que ça sort avec la série Flash Rebirth. Donc quand même quelque chose de vraiment plutôt sympa.
Oui, qui est là par contre, oui. Là par contre, allez-y, hein. Ça va être du bon.
En
ça
un seul tome, on va du lourd. En un seul tome, ce qui n'est pas le cas de DC, de Justice League Cry for Justice, qui sera dans 2 albums librairie en mai et en septembre. Donc une mini-série en 7 qui se retrouve en 2 albums.
Oui, et en album de quel format? DC Icons, non? L'espèce de truc...
DC Heroes. Album DC Heroes. Voilà.
Ah, d'accord, donc au fait, maintenant, ça va être avoir le même titre que cette gamme de livres, finalement.
Bah, apparemment, ouais. C'est un petit peu le problème. Mais il nous avait fait le coup avec, je ne sais plus quelle mini-série qui publie en 2, j'en avais parlé la dernière fois, mais j'ai un trou de mémoire.
Cry for Justice, de ce que j'ai entendu, d'ailleurs, n'est pas extraordinaire, donc en plus, le voir divisé en 2, ça donne pas spécialement envie, quoi.
Ouais, moi non plus. Oui, c'était Superman Secret Origins qui était sorti, qui va sortir en 2, et donc ils nous font la même chose pour Cry for Justice. Bon. Bah voilà. Donc apparemment ils ont décidé de couper toute la mini-série en 2 pour faire plus de pognon. Je vois pas d'autres.
Moins, parce que franchement, je pense qu'ils auraient plus à gagner à sortir un bouquin en une seule partie, et peut-être que ça se vendrait plus qu'en 2, quoi. Ça décourage. Moi je pense que je le prendrais pas du coup. Alors que je l'aurais peut-être pris si c'était sorti en un seul exemplaire.
Bah alors qu'il y a un seul TPBVO, quoi, c'est un peu con. Enfin,
bon. Oui.
Les choix de Panini restent impénétrables. Sinon, on aura une nouvelle salve de Marvel Noir, X-Men Noir, de Iron Man Noir et Luke Cage Noir qui va enfin sortir.
D'accord, donc c'est plutôt des bonnes nouvelles, en puisque 2020, la gamme noire est assez sympathique, elle se vend plutôt bien en France. Oui. Par contre, aux États-Unis, elle n'a pas eu le succès escompté et elle risque de s'arrêter d'ailleurs.
Iron Man Noir est le dernier sorti pour le moment et rien de nouveau d'annoncé de ce côté-là. On continue avec Shadowland, qui sort en ce moment en VO aux États-Unis, bien évidemment. Ça sera publié en juillet dans Marvel Heroes Extra 7, la mini-série complète, donc en 5 épisodes. Mais on aura aussi un album Monster, qui sortira lui aussi en juillet, et qui contiendra les mini-séries Blood on the Streets, Moon Knight et Power Man.
D'accord.
Donc voilà, donc, ils nous font tout l'event, quasiment.
Oui.
Puisqu'il y a juste quelques petits one-shots qui ne sont pas publiés, comme Elektra ou...
Qui vont peut-être ressortir ensuite dans des hors-séries, au fait.
Peut-être, ouais. Ils
vont peut-être sortir dans des hors-séries. Donc, bon. Voilà. Donc, en tout cas, Shadowland, si vous suivez les Comics Weekly, vous en avez forcément entendu parler.
Oui, notre running event. Voilà. On continue avec Marvel Classic, un nouveau trimestriel en kiosque qui commence à partir de janvier. 144 pages, et qui contiendra les origines des principaux héros Marvel.
D'accord, c'est un petit peu ce qu'ils avaient sorti en gros bouquins à l'époque, Panini, il y a quelques années, c'est-à-dire des gros bouquins cartonnés, mais là ce sera les mêmes à mon avis pour pas cher.
Et les numéros suivants contiendront des aventures vintage de héros à l'actualité brûlante, dont certains inédits. Plus de détails bientôt.
D'accord, alors là je suis curieux de voir les inédits.
Bah, on verra
Mais
bien.
sans Panini aussi, faut
Peut-être
voir, est-ce que
des anciens épisodes qui n'avaient pas été publiés à l'époque par Simic. Mais il y
Ouais.
a sûrement des choses qui ont été publiées en intégrale depuis.
Oui, voilà, c'est ça aussi. C'est que
Je
avec
ne
les
sais
intégrales, à
pas.
mon avis, ce sera plus totalement inédit. Enfin bon,
On
on
en
verra.
saura plus bientôt. Et pour terminer avec Panini, il nous annonce un nouveau bimestriel à partir de mars qui fera 48 pages. C'est Deadpool.
D'accord.
Voilà, donc bimestriel et de 48 pages, il y a de fortes chances que ce soit la série principale Deadpool et pas les autres séries type
Ouais,
Merc de Mars ou ce genre
on
de
se
choses.
demandait où était Deadpool en français.
Bah pour le moment dans les Monsters, Dark Reign,
Surtout, oui.
mais
Mais enfin,
la
c'est
fin du
disparate,
Dark
quoi.
Reign.
Il est vraiment dispersé à travers plein de titres. Donc là, enfin, il a son propre titre.
Ah oui, puisqu'il n'y aura plus de Monster Dark Reign, puisque Dark Reign sera terminé d'ici mars.
Et il
Donc,
l'avait d'ailleurs son propre titre. Il fut un temps Deadpool, il me semble.
oui, à l'époque de la série écrite
De
par Joe
Joey
Kelly.
Kelly.
Ouais. Voilà, donc c'est tout pour les news de Panini, donc toujours pas mal de choses qui sortent. Ah non, il m'en reste une petite que j'ai oubliée, autant pour moi. Chez Wildstorm, qui malheureusement est mort, hein, comme on le sait maintenant.
Oui, enfin, qui va peut-être ressusciter d'une forme, enfin d'une manière ou d'une autre prochainement.
Sortira donc en octobre 2011 un album qui contient la mini-série Victorian Undead. Donc
D'accord.
Sherlock Holmes versus Zombies.
Ah oui, dit comme
Voilà.
ça, effectivement, c'est un peu plus vendeur. Sherlock Holmes contre les zombies. Je crois
Et
qu'on a
oui.
eu d'ailleurs Sherlock Holmes contre Dracula un jour, comme Batman d'ailleurs.
Mais il vient de sortir aux États-Unis aussi un one-shot Victorian Undead versus Dracula, j'avoue.
Ah bah voilà, d'accord,
À
ok.
l'occasion d'Halloween. Donc ça, c'est
La
pour
boucle est bouclée.
2011,
La boucle est
octobre
bouclée.
2011. Voilà, c'est tout pour Panini cette fois-ci.
Eh bien, on va passer aux news ciné. Et les news ciné, ce mois-ci, enfin non, c'est pas ce mois-ci d'ailleurs, c'est
Cette quinzaine.
cette quinzaine, oui. Eh bien alors, on a pu voir quelques petites images du futur blockbuster Marvel, Captain America. Puisque Entertainment Weekly, au fait, a fait sa couverture avec notre Torche. Alors, donc, comment s'appelle-t-il déjà?
Chris Evans.
Voilà, Chris Evans en Captain America. On voit enfin les premières photos, voir ce que ça donne. Alors, bon, comme ça, a priori, c'est surtout des photos qui datent de la guerre. Enfin, dans le film, évidemment. Montre un Captain America qui me fait penser un petit peu à Ben Affleck dans Pearl Harbor.
D'accord.
Donc voilà. Donc bon, faut voir ce que ça donne. Ça va être en tout cas très américain, on va dire. On va dire ça comme ça. Mais bon, enfin deux premières images qui font pas peur non plus, quoi. C'est vraiment le Captain America des années 40, quoi.
C'est pas comme le costume de Green Lantern, donc.
Non, c'est assez bien rendu. Bah, c'est l'ancien costume de
Oui,
Captain
oui.
America, donc bon.
Non, mais quand tu dis que ça fait pas peur,
Oui,
c'est ça
ça
que
fait
je
pas
veux dire.
peur. Il y a pas encore les deux ailettes sur le casque, donc bon. Pour le moment, ça va encore. Autre news ciné, Ghost Rider. Alors, il va y avoir un Ghost Rider 2, mais surtout, on a appris récemment que Ghost Rider Spirit of Vengeance, ce sera le titre du Ghost Rider 2, et ben son budget, le budget de la prod, se voit divisé par deux. Donc, très bonne nouvelle,
C'est pas bon signe.
de 135 millions, on passe à 75 millions de dollars de budget. Donc voilà.
Ça calme. Enfin, faut
Donc
préciser quand même que le Ghost Rider 2 sera produit par les studios Marvel qui récupèrent les droits, si j'ai bien retenu l'information, je crois à partir du 14 novembre, date à laquelle va commencer le tournage en même temps.
ouais, donc ils perdent quand même 60 millions en fait de budget. Donc c'est quand même pas mal. Faut dire que donc le premier avait pas été un four, ça avait plutôt bien fonctionné, malgré le fait que bah c'était pas terrible et les critiques l'ont bien précisé quoi. Le premier Ghost Rider, c'était pas ça. Alors est-ce que Nicolas Cage va reprendre le rôle? Pour le moment on sait pas. Il a pas dit non apparemment. Donc voilà. Le suspense est à son comble, j'ai envie de dire.
Bah, on verra ça d'ici bientôt, quoi. Déjà, quand il y aura le début du tournage, je pense que certaines infos vont commencer à affluer.
Est-ce que ce sera en 3D? Ce serait peut-être cool, un Ghost Rider en 3D.
Ou pas, vu que le
Ou pas,
budget est
d'ailleurs,
divisé
puisque
par deux, je suis pas sûr.
c'est peut-être le budget initialement prévu pour la 3D qui vient de disparaître. Bon, bah, enfin, tant pis. Voilà. Donc, pour les fans, hein, du premier épisode, enfin, du premier film, Ghost Rider 2, on vous
Ou
en
les,
reparle très vite.
ou les fans déçus de Ghost Rider 1, peut-être.
J'irai pas jusque là, hein, franchement.
Qui espère peut-être mieux venant de la part de Marvel Studios lui-même.
Oui. Et puis, oui, dernière chose, dernière news ciné, on a le nom du troisième Batman, la trilogie de Christopher Nolan. Ce sera donc Batman The Dark Knight Rises.
Mmh.
C'est tout ce qu'on sait pour le moment, c'est ce maigre titre. Et a priori, donc, ce serait bien une trilogie, il n'y en aurait pas d'autres, en tout cas pas de Christopher Nolan ensuite. Il va passer à autre chose, donc voilà, ce sera juste une trilogie à la manière des Matrix, de tous ces films-là. C'est la mode, quoi, des trilogies. C'est tout pour les news ciné, et on va passer à autre chose, puisque nous avons un invité aujourd'hui.
Pour le LCF, nous avons enregistré un petit message avec...
avec Nono, pas le petit robot, l'autre, celui qui organise le LCF. Et on le met tout de suite.
Oui, voilà, un des membres de l'association qui s'occupe du LCF, et donc on vous diffuse ce message tout de suite. Et comme toujours, on fait notre point LCF, à l'approche du grand pas du festival. Et donc, qui de mieux placé pour parler du LCF qu'un des membres de l'association Artemis qui organise le LCF chaque année, Arnaud.
Mais oui.
Bonjour à tous.
Salut. Bonjour Arnaud.
Alors, on s'est dit, on va parler du LCF, mais voilà, cette fois-ci, on va faire différent. On veut que ce soit quelqu'un qui ait vraiment le pied dans le festival.
Même les deux.
Les deux, ouais. Et même
son chapeau aussi.
Ouais, tout.
Même le chapeau.
Enfin, Nono a un grand chapeau. Voilà. J'ai même fait une liaison qui n'existe pas, mais c'est pas grave.
Donc, ben, parlons un petit peu du LCF, Arnaud.
Bien, donc le LCF, oui.
Le LCF. Plein de choses magiques qui nous donnent envie tous de t'y aller.
D'accord. Donc le LCF, c'est la cinquième année cette année qu'on l'organise. Donc, comme vous le savez, ça aura lieu le 13 et 14 novembre sur l'île, plus précisément à la salle du gymnase. C'est une salle qui est sur la place Sébastopol, pour ceux qui connaissent l'île. Donc ça sera le samedi et le dimanche. Au niveau des horaires, c'est de 10h à 19h les deux jours. Vers 4€ la journée, voilà.
Donc ça va, ça va pas crever le budget.
Pas excessif, quoi.
Non, effectivement. Donc, sur place, qu'est-ce que vous allez retrouver? Vous allez retrouver des grands noms du comics. Vous en avez déjà parlé dans les différents podcasts, mais pour petit rappel, il y a Frank Whiteley, T.S. Williams 3, Joe Quinones, Gerard, Eagle, Jock, Barry Kingston. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de noms. On a une trentaine d'invités cette année. C'est la première année où on a autant d'invités.
Aussi bien d'ailleurs des artistes américains que aussi des artistes français. Il y en a quand même quelques-uns aussi. Ouais.
Oui, on a Paul Renaud, on a Stéphane Nyanz, on a Gérald Barrel, on a Phil Briones.
D'ailleurs, oui.
Ah,
d'ailleurs,
ça se prononce Briones, d'accord.
Et la grande question, c'est comment ça se prononce? Est-ce que c'est Briones, comme on dit à l'américaine? Briones en français, Brionne, je sais pas.
Et moi, je l'ai prononcé comme c'est venu, en fait. Donc,
ça nous fait déjà une question à lui poser, c'est bien.
Voilà. C'est bien. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de monde cette année. Donc, vous aurez la possibilité d'avoir des dédicaces de ces personnes. Donc, comment fonctionnent les dédicaces sur l'île? Les dédicaces sont gratuites. C'est à savoir une signature. La signature est gratuite. Par contre, si vous voulez un dessin, vous avez la possibilité d'acheter en fait des lithographies qui ont été faites par les artistes, qui sont vendues au prix de 3€. Et avec chaque lithographie, ouais, c'est vraiment pas cher. Avec chaque lithographie achetée, vous avez un ticket dédicace. Donc le ticket dédicace ne vous donne pas obligatoirement l'obtention d'une dédicace. C'est-à-dire que si vous achetez votre lithographie avec votre ticket dédicace, vous avez le droit d'avoir une dédicace. Mais si l'artiste, pour une raison lambda, et qu'il est, vous faites la queue et qu'il est 19h, bon ben voilà, votre ticket dédicace, soit vous revenez le lendemain, soit vous n'avez pas forcément votre dessin.
Ouais. Après, l'artiste... Ça c'est un petit peu le problème de tous les salons. Malheureusement, effectivement, les artistes sont pas non plus des machines. Faut aussi comprendre que, voilà, si, par exemple, Quietly doit aller aux toilettes, bah il ira aux toilettes.
Oui, tout à fait.
Voilà, avant de faire un joli dessin Batman ou Superman. Mais bon.
Par contre, les signatures, voilà, c'est si vous avez des comics à faire dédicacer, à faire signer, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous ramenez votre valise et vous les faites signer.
Enfin, dans des proportions raisonnables, j'imagine.
Là, tout à fait.
Si on amène chacun notre bibliothèque, ça va peut-être pas le faire.
Non mais voilà, c'est le système de dédicace. Après, chaque artiste, alors la dédicace donne droit à un dessin crayonné, voire ancré d'une tête, un truc un peu rapide, parce que vous allez être nombreux à voir des dédicaces. Après, chaque artiste est libre de fixer ses prix pour avoir un dessin un peu plus travaillé. C'est-à-dire avoir
ce qu'on appelle une commission, quoi, souvent, voilà, aux États-Unis.
Voilà, juste un dessin en pied, des choses comme ça. Ça, après, c'est libre à l'artiste de fixer son prix.
Bon, un dessin en pied, ça ne veut pas dire qu'il dessine avec ses pieds.
Oh là.
Je m'y attendais à celle-là, mais.
Oui. La vanne comicsitienne. Ouais. Réputée dans tout le monde, hein, pour.
Oui.
Pour son mauvais goût.
Voilà, exactement.
Exclusif de blagues de Bunny lors du festival.
Non, enfin, ce sera peut-être pour la fin de l'année. On va peut-être sortir un best-of de mes blagues. Enfin, je vais peut-être sortir, puisque voilà, je vais me la jouer mégalo avec un coffret collector DVD avec des paillettes dessus qui brillent.
Tu l'annonces sur le blog.
Voilà, on vous en parlera plus prochainement. Mais en attendant, retournons au Lille Comics Festival, puisque il y a pas que ça, il y a aussi, t'as aussi d'autres choses à nous dire.
Il y aura des panels, donc des panels, c'est des espèces de conventions ou des conventions publiques où les gens pourront poser des questions directement aux artistes présents. On n'a pas encore le planning définitif des panels. Pour l'avoir en temps et en heure, je vous invite à rejoindre la page Facebook ou le Twitter du Lille Comics Festival. Donc l'adresse du Lille Comics Festival, c'est www.lillecomicsfestival.com. Le Facebook, c'est Lille Comics Festival et le Twitter également. Donc là-dessus, vous avez toutes les infos en temps réel. De toute façon, Cables Chronicle, qui est notre partenaire, ainsi que Comic City, ont également les infos en avant-première. Donc, si vous suivez les deux sites, ce qui est fortement recommandé, c'est très bien. Je fais un petit peu de pub au passage pour tout le monde.
Voilà, on n'avait pas remarqué. Non, mais très bien, très bien. C'est très bien.
Voilà. Donc, en plus des panels, il y aura des animations. Il y aura également une tombola avec des tickets à acheter, avec un tirage au sort. Donc les tickets, j'ai pas le prix exact, mais ça doit être entre 1 et 2 euros le ticket.
Non, mais c'est pas cher non plus.
Voilà,
et qu'est-ce qu'on gagne alors? Une Batmobile? La vraie Batmobile?
Non, non, celle-là on la garde, c'est pour nous. C'est pour transporter les auteurs de la gare jusqu'à la salle du festival.
D'accord.
Donc, le grand prix de cette tombola, c'est l'affiche originale du Lille Comics Festival dessinée par Whiteley, donc le dessin vraiment original, pas une reproduction, signé.
Ça, c'est du beau cadeau quand même, franchement.
Ça, c'est le fameux dessin qu'on prévoit d'essayer de choper durant tout le festival, donc de voler. Je sais pas où est-ce qu'il sera planqué, mais on craquera le coffre et on arrivera à voir la combinaison et on va partir avec, je pense. Un style.
Moi, je ne me prononce pas. Hein, je ne veux pas afficher devant tout le monde mes tendances à la félonie.
Oui. Non, parce que si vraiment il est volé, tu vas être la première personne chez qui on va aller, quoi.
Ce serait ballot, franchement.
Ouais, bah oui, de toute façon, vous pouvez venir. Hein, vous le trouverez pas, malheureusement, je pense.
Donc ça, c'est le grand prix de la tombola. Ensuite, on va avoir plusieurs prix par nos. On a des partenaires.
Vu que c'est une tombola, est-ce que tout le monde peut participer ou pas?
Oui, tout le monde peut participer, bien sûr. Sauf les membres de l'association, malheureusement. Après, au niveau des lots, il y aura aussi des lots de comics à gagner. On a des partenaires, on a des boutiques partenaires comme Astro City, comme Comics Culture sur Paris, qui nous ont gentiment offert des lots de comics. Donc voilà, beaucoup de choses à gagner. Il y aura bien évidemment également beaucoup de boutiques. Des boutiques de comics pour pouvoir acheter vos back issues, même les nouveautés. Astro City aura un stand par exemple sur l'île.
Ça, c'est bien ça.
Voilà, il y aura pas mal de boutiques.
C'est vraiment une convention à l'américaine, quoi.
Ouais, et faut également préciser que c'est la seule convention exclusivement comics en France.
Oui, alors ça je me tue à le dire depuis un certain nombre de temps. J'espère que je l'ai dit dans les podcasts quand même, que j'ai pas oublié. Parce que c'est vrai que voilà, j'insiste particulièrement là-dessus, c'est la seule réservée 100% aux comics en France, et c'est pour ça qu'on la soutient assidûment, en fait.
Ouais. Donc on aura également beaucoup de nos partenaires, notamment du Blindé Comics, qui seront représentés sur des stands comme Banga Comics, par exemple.
Avec Pierre-Mine, par exemple.
Voilà.
Je sais pas s'il sera là, mais...
Plus, il sera là, Pierre-Mine.
D'accord.
On aura des auteurs, des dessinateurs qui seront là en dédicace également. Mm-hmm. Donc voilà, beaucoup de choses pour cette année. D'ailleurs, on a déjà eu des pistes pour les éditions suivantes. La mairie, d'après le succès qu'on a, la mairie souhaite en fait qu'on qu'on s'élargisse encore plus. Donc l'année prochaine, on devrait avoir une salle encore plus grande. Chaque année, en fait, ça va en grandissant. Là, on a une grande salle qui est sur 2 étages. L'année prochaine, on devrait avoir encore une plus grande salle.
Justement. Voilà, une discothèque entière.
Voilà.
Mais ça, c'est bien, quoi. Je veux dire, c'est franchement une bonne nouvelle.
C'est comme WrestleMania, en fait. Bon, les fans comprendront de quoi je parle.
Moi, j'aurais comparé ça avec la San Diego Comic Con, qui, quand elle a commencé, on voit ce que c'est aujourd'hui. Mais bon, WrestleMania aussi, pourquoi pas.
Ouais, ça dépend, hein. Il y aura peut-être une foire d'empoigne. J'espère pas, mais bon. Mais en tout cas, Nono, je sais pas si t'as précisé aussi, c'est la combientième édition?
C'est la 5e édition, cette année.
C'est la 5e édition, déjà.
Mmh. Ouais.
Et donc, c'est une édition que vous portez, finalement, à bout de bras depuis 5 ans, en fait, avec votre association.
Voilà, totalement. Et là, cette année, on fait vraiment les choses en grand. C'est-à-dire que comme je disais tout à l'heure, c'est la première année où on a autant d'auteurs qui viennent. On est à plus d'une trentaine là à l'heure actuelle. On est vraiment ancré là-dedans et on bosse très très régulièrement. On a une réunion par semaine à peu près au niveau de l'association.
Et voilà. C'est bien parce que si jamais ça se passe vraiment bien, et je vois pas pourquoi ça se passerait mal d'ailleurs,
oui.
Mais ça fera du bon bouche à oreille avec les auteurs qui en parleront à d'autres potes à eux.
Plus de
monde encore, quoi.
Par exemple, Barry Kingston, c'est la troisième fois qu'il vient cette année et il est vraiment enchanté à chaque fois de venir.
Preuve que ça lui plaît, quoi.
Cool. Oui, voilà, ça lui plaît énormément, ça lui change en fait des conventions, on va dire, un peu plus classiques.
Ah bah c'est sûr, hein, on mange du maroilles au lieu de manger des hamburgers, voilà. Je sais pas. Ce qu'on
mais c'est vrai qu'il y a une bonne propension à avoir des auteurs anglais. Vu le Place et Lille, bah, oui. On a des gens comme Andy Deagle, comme Jock, comme Barry Kitson qui sont anglais, de toute façon. Et c'est vrai qu'en étant pas loin d'Angleterre, ça permet d'avoir beaucoup d'anglais, d'auteurs anglais. Et Dieu sait si dans le comics, il y en a un paquet quand même. Et sinon, on en a parlé plusieurs fois, et on va encore refaire un appel, les bénévoles. Si tu peux nous en parler un petit peu, Nono, puisque t'es quand même le mieux placé d'entre nous.
Ouais, bah, tout à fait. On a absolument besoin de bénévoles. Donc le bénévolat, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est chez nous ? En fait, c'est nous aider vraiment dans la gestion quotidienne du festival. Donc principalement sur les 2 jours, sur les 2 jours du festival, les 13 et 14, mais également le vendredi. On a besoin le vendredi pour installer la salle, parce qu'il faut tout monter, tout installer, les tables, récupérer les plateaux, tout ce qu'il y a à faire pour installer les 2 étages de la salle, et le dimanche soir et le lundi pour ranger. Parce que c'est pareil, la salle, il faut la rendre nickel. Donc voilà, ça c'est, on va dire, le boulot un peu ingrat du bénévolat.
Et peut-être même que si vous êtes bénévole, le vendredi, vous pourrez croiser Benny en avant-première.
Voilà, tout à fait.
Oui,
ça, ça n'a pas de prix.
Parce qu'il avait dit qu'il s'engageait à aider à monter les tables.
Oh non, j'ai pas dit ça. Je serai là le vendredi, mais voilà. Hein. Non, je boirai sans doute un café avec Nono, hein, n'est-ce pas Nono?
Oui, tout à fait. Et pendant la durée du festival, donc c'est par exemple, il y a plein de tâches à faire, aider à gérer le bar, aider à gérer la partie restauration, aider les auteurs à se diriger dans l'île, par exemple pour aller manger le midi, pour les accompagner à l'hôtel le soir, aller les chercher le matin, beaucoup de choses comme ça à faire, parce que c'est bien qu'avec 30 auteurs, nous dans l'association on est 8 ou 9, voire une dizaine. On va pas pouvoir gérer chaque partie, déjà à l'accueil de la billetterie, on va être 3 ou 4 tous les matins. Donc c'est déjà 3 ou 4 personnes en moins sur le festival en lui-même. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à gérer. Donc l'avantage d'être bénévole, c'est que vous allez pouvoir voir les auteurs dans un autre contexte que le contexte fanboy, viens chercher ma dédicace. Vous allez pouvoir vraiment parler avec eux, manger avec eux, les rencontrer et discuter et partager avec eux dans un environnement un peu plus cool que celui simplement de fan à hauteur, l'un derrière sa table et qui dessine, qui signe, et l'autre qui lui pose des petites questions. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire que c'est le gros avantage d'être bénévole.
Et comme tu disais, le manger avec eux, puisque le repas est offert.
Voilà, le repas pendant le festival est offert, vous allez pouvoir manger avec eux.
Je vous encourage vraiment, si vous pouvez, si vous comptez venir au festival, si vous êtes dans le coin, N'hésitez pas à devenir bénévole parce que déjà vous rendrez service au Ludcomic Festival, et puis vous
Oui.
vous rendrez service à vous-même en rencontrant les auteurs que peut-être vous avez eu envie de rencontrer pendant très longtemps et pouvoir les voir plus que le temps d'une signature.
Oui, vous aurez un rapport privilégié avec eux, et puis voilà, et puis en même temps, ça aide vraiment le Lille Comics Festival à perdurer. Là, ça fait déjà 5 ans, et on espère que ce sera encore plus grand, comme tu le disais, Nono, l'année prochaine. Et
Voilà.
pour ressortir mon slogan tout pourri, si vous voulez allier passion et bonne action, eh bien, soyez bénévole au Lille Comics Festival. Voilà.
Effectivement.
C'est beau, hein.
Il est
bon
magnifique.
Slogan.
Donc, si vous voulez devenir bénévole, vous envoyez un petit mail à l'adresse contact@lillecomicsfestival.com.
Voilà, de toute façon, on remettra l'adresse dans les liens, de même que l'adresse du site, l'adresse du Facebook, du Twitter. On mettra tout ça aussi sur la page du podcast avec le minutage. Bien, merci Nounou pour toutes ces précisions.
Ben de rien.
C'est vrai que qui mieux placé pour en parler que toi.
Oui.
C'est beau ce que tu dis, Steve.
Ouais.
T'es un grand humaniste. N'importe quoi.
Je m'aurais préféré poète, mais bon.
Oui, un grand poète aussi, les deux à la fois. Oui, bah alors merci à toi, Nono, et surtout venez nombreux, aussi bien en tant que bénévole qu'en tant que fan de comics, tout simplement. On sera là nous aussi. Et c'est pour ça que tout à l'heure tu disais que ça devrait bien se passer. Bah, je sais pas, hein, cette année, vu qu'on est là, il y a des chances que ça se passe plutôt mal, mais bon, on verra bien. Non, tout va très bien se passer.
Ok, mais j'espère tous vous voir les 13 et 14 novembre au Lille Comics Festival.
Et on passe maintenant à nos reviews. On commençait cette quinzaine de reviews avec le kiosque, bien évidemment. Batman Universe numéro 3. Dedans deux histoires principales, même s'il y a 4 épisodes en réalité. La première, c'est Batman et Robin 1 à 3. Donc au scénario Grant Morrison et au dessin Frank Quitely, que vous retrouvez au Lille Comics Festival.
Exactement. Comme vient le préciser Nono, le petit l'autre, celui au grand chapeau, voilà.
Donc, c'est le début de cette nouvelle série écrite par Grant Morrison. Nous avons les 3 premiers épisodes qui forment le premier arc. À savoir que Franco Ettoli a dessiné le premier arc, la suite n'est pas forcément dessinée tout le temps par lui.
Oui, d'ailleurs même très rarement finalement. Je crois qu'on retrouve Philippe Tan pour le prochain.
Peut-être oui, je ne sais plus. Et c'est vrai que bon, le tandem Morrison-Quitely a fait ses preuves et marche plutôt bien quand même.
Oui, bah on le connaît surtout grâce à X-Men.
Oui, et puis aussi All-Star Superman.
Et All-Star Superman, c'est vrai. Mmh. Effectivement. Alors écoute, vas-y, hein, je te laisse nous dire ce que t'as pensé du travail de Morrison, que t'adores d'ailleurs. T'es l'un des plus grands fans de Morrison en France.
Oui. Moi je dois pas être le seul. C'est assez bizarre comme arc, c'est-à-dire que on a donc le nouveau tandem Batman en la personne de Dick Grayson et Robin en la personne de Damian,
oui,
qui vont marcher ensemble sur une histoire assez étrange avec un nouvel ennemi, le professeur Pig.
Ouais, le professeur Pig ou le docteur Pig, je sais plus comment c'était traduit en français, mais enfin, en tout cas, moi, en ce qui concerne ce premier arc, je trouve qu'il se passe pas grand-chose, en fait.
Bah, il se passe même presque rien, honnêtement. Il y a un joli découpage de Frank Whiteley qui nous fait des scènes où il n'y a pas de dialogue, des scènes où il prend son temps pour une action qui est très très lente, mais qui finalement il découpe bien en plusieurs cases et qui nous donne un aspect de mouvement. C'est franchement super beau. Maintenant, au niveau contenu, voilà, je suis pas super super emballé avec ce nouvel ennemi. Je le trouve même assez pathétique.
Ouais. Et puis alors le bon, en ce qui concerne les dessins, l'aspect graphique, Frank Whiteley, pour ceux qui aiment, allez-y, hein, vous serez aux anges, c'est du tout bon. Moi, je suis pas spécialement fan, mais j'ai pas détesté non plus ses dessins. Franchement, ça va. En plus, il est bien, comment dire, les personnages qui dessinent là, disons, sont faits pour lui, quoi. Le docteur Pig et puis l'espèce de grosse bonne femme, par exemple, là, qui font partie des méchants de cet arc. Enfin voilà, je trouve que ça lui convient bien. Ça convient bien à son style graphique. Par contre, en ce qui concerne le scénario, voilà, quoi, il se passe vraiment pas grand-chose. Finalement, c'est 3 parties qui se lisent très vite.
Oui.
ça aurait pu être limite une histoire. Il y a une scène intéressante, enfin une partie quoi. Il y a une scène intéressante, c'est à la rigueur, c'est celle où il y a une espèce de discussion avec Alfred et Dick Grayson qui se dit mais j'arrive pas à canaliser l'énergie de Damian, j'arrive pas à le dresser, j'allais dire, parce que c'est pratiquement
mais
ça.
C'est presque ça, oui, effectivement.
Oui. Voilà, à son niveau, c'est pratiquement ça. C'est un électron libre et j'ai trouvé ça assez intéressant, mais on verra tout à l'heure que Winnick parvient aussi à écrire ce genre de scène. Donc bon, voilà quoi. Le style Grant Morrison se ressent aussi sur la psychologie au fait du Dr. Pig et cette espèce de personnage totalement barré, déjanté, qui a des sans mauvais jeu de mots, qui nous fait une logorée. Attention. Voilà. C'est super drôle.
Voilà.
Logoré ininterrompu pendant trois pages sur sa bah sur lui quoi, ou je sais pas, il a des termes totalement décousus. Je me rappelle plus, hein, je les ai plus en tête, mais tu vois de quelle scène je parle là.
Exactement. Oui.
Oui. Voilà, c'est du Grant Morrison et franchement, est-ce que ça veut dire quelque chose au final? Je suis même pas certain en fait. Franchement, voilà quoi.
Ça montre que le personnage est dérangé, il est très bizarre.
Ouais.
Donc c'est dérangeant, mais c'est pas encore malsain quoi. Il y a quand même une limite entre le dérangeant et le malsain qu'il ne franchit pas.
Mmh. Non
déjà,
mais
c'est pas mal. Moi honnêtement, enfin je sais pas toi, mais l'ambiance, le design qui est franchement très années 60. Personnellement, je n'aime pas trop cette nouvelle Batmobile.
Ouais, un peu ridicule, un peu kitsch quoi.
Le fait du rouge. De Pig, les masques, toute cette espèce d'obsession malsaine presque pour les masques et le fait de recouvrir les gens d'un nouveau visage, etc. Moi, ça m'a vraiment fait penser à Orange Mécanique.
Ouais, il y a un petit côté Orange Mécanique, c'est vrai.
Avec cet excès de violence de la part de Pig, le fait de se cacher derrière un masque, exactement comme il était le personnage principal
de
Orange Mécanique.
Je croyais que t'allais me dire, ça m'a vraiment fait penser au Batman des années 60, la série, à cause de la Batmobile criarde, et puis...
Ah non, pas du tout, non, c'est vraiment, c'est tout le design, même quand tu regardes les décors, il y a un design très 60s.
Ouais.
60s, 70s, mais tu sais, à l'époque, on essayait de faire du futuriste qui faisait hype, enfin, tu vois un petit peu cette ambiance-là. Bah, regardez Orange Mécanique, enfin, pour moi, ça m'a vraiment fait penser à ça. Après, je sais pas si toi, tu l'as vu de ton côté, enfin, si tu as ressenti ça comme ça.
Si, non, mais complètement, ouais, maintenant que tu le dis, c'est vrai que... Mais disons que ce que je reprocherais là-dessus, enfin, ce qui m'a pas tellement plu, c'est que je trouve ça un peu facile, quoi, c'est pas... Enfin voilà, je vois pas là le génie absolu de Grant Morrison sur cet arc en tout cas. Je trouve ça sympa, mais sans plus. En fait.
Bah, un des aspects les plus intéressants, c'est à la rigueur cette fin, avec le retour d'un personnage qu'on se doute bien que ce n'est pas lui, mais qui est donc ce personnage-là, cet ancien nouveau personnage, enfin, vous comprendrez, je veux vraiment pas spoiler.
Ah oui, effectivement.
Voilà. Là, franchement, voilà. Il y a une autre chose par contre que je n'ai pas compris à...
Et moi, je vois pas trop le lien avec cette fille, justement.
Bah, je ne sais pas.
Voilà.
Moi non plus. Mais il y a une chose que j'ai pas compris, ce qui se passe juste avant cette scène. On voit le bossu. Et on voit Batman et Robin traquer le bossu. Et j'ai pas compris.
Oui, le bossu, donc, qui était un ennemi faisant partie de la bande de Dr. Hurt.
Voilà, c'est ça.
Dans Batman R.I.P. Batman R.I.P., on va dire. Et voilà. Donc oui, je sais pas non.
J'ai pas compris ce qu'il faisait, comment, quoi, où. Enfin voilà. Là, ça m'a. Franchement, c'est une scène où je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle vient foutre là cette
mais
scène.
Apparemment, Pig ferait partie de ces hommes d'affaires ou de ces riches nantis qui faisaient partie de l'espèce de secte menée par le Dr. Hurt, je pense.
Ah d'accord, peut-être. Ouais.
Mais je pense, hein. Parce que tu te rappelles, ils étaient tous masqués. Rappelle-toi à la fin de R.I.P.
Oui, oui.
Donc peut-être que Pig d'ailleurs, peut-être qu'il était dans la bande au fait.
Peut-être. Oui. Bah, de toute façon, c'est un personnage, à mon avis, que Morrison va continuer d'utiliser.
Ah oui, de toute façon, ça, je sais qu'on le revoit, puisque on le voyait dans l'un des épisodes que j'ai chroniqué dans un weekly. Donc on le reverra.
C'est vrai que dans l'ensemble, on se demande un petit peu où ça va, quoi, pour le moment.
Mais c'est gentil, et il n'y a pas de.
Moi, j'aime bien la façon dont il campe Dick Grayson, qui est vraiment différente de Bruce Wayne. Donc déjà, j'avais peur qu'il nous fasse un petit peu la même chose avec Batman. Et enfin, en tout cas, la même chose sur Dick Grayson qu'il nous faisait sur Bruce Wayne. Il y a une différence, donc déjà, c'est pas mal. Même si je n'apprécie toujours pas le fait de mettre autant en avant Damian, quoi. C'est un personnage que je n'aime pas. Donc, et même avec cet arc-là, il ne me réconcilie pas. J'ai toujours autant envie de lui mettre des grandes tartes dans sa gueule, quoi.
Bah...
Un choix, il faut subir, c'est comme ça.
Non, mais enfin, Voilà, disons que pour ma part, je ne déteste pas, mais j'ai trouvé ça très moyen comparé aux éloges que j'avais entendus à propos de ce début de Batman et
Mais
Robin.
moi personnellement, j'ai trouvé ça plus lisible que
Ah
les
oui, non, non,
épisodes sur
mais
Batman. Déjà,
en tout cas, c'est
c'est...
très clair. Par exemple, ce serait un jumping point pour quelqu'un qui voudrait commencer Batman. Il pourrait commencer par là, il comprendrait ce qui se passe.
Oui, bah tout à fait.
Y a pas de, même avec le petit résumé que nous fait Panini au début, il n'y a pas grand-chose à savoir. Donc, bon, disons que c'est, voilà, c'est juste moyen pour le moment.
On verra où ça mène. En tout cas,
Et ça prend son temps.
la fin m'intrigue. Donc c'est déjà une bonne chose.
Ouais, moi aussi.
On passe à la deuxième histoire, et donc le dernier épisode de ce mag. C'est le Batman numéro 688, donc la série principale Batman.
Oui.
Elle est écrite par Judd Winnick, au dessin Mark Bagley et à l'ancrage Rob Hunter. Et je trouve que c'est un très bon point de départ pour le nouveau Batman, en fait.
Alors au
Donc la
fait,
personne
oui,
de Dick Grayson.
rappelle-toi, il y a 2 mois, on avait eu un épisode de Judd Winnick, pas dessiné par Mark Bagley, dessiné par quelqu'un d'autre, et t'avais trouvé ça chiantissime, mais moi aussi d'ailleurs, c'était pas terrible, il se passait pas grand-chose.
Là,
Mais
celui-ci, je le trouve vraiment, vraiment sympa.
oui, là, contrairement aux 3 premiers épisodes de l'arc des débuts, quoi, par Grant Morrison et Quitely, là justement, il se passe plein de trucs en un épisode, je trouve.
Mais ce qui est bien, c'est qu'en plus, vu que la série s'appelle Batman et qu'on a une série Batman et Robin, dans cette série-là, je sens qu'on va se concentrer réellement sur Batman et non pas sur le temps même.
Quoique, ils en parlent aussi,
Oui,
enfin,
ils en
Fred
parlent,
Dury en parle.
mais on voit pas Damian agir constamment, normal, puisqu'il est
Oui,
pas dans le titre de
exactement.
la série, puis qu'il a déjà sa place dans Batman et Robin. Donc du coup, là, on n'a que Batman, et j'aime bien le Batman Dick, quoi. Moi, je l'aime bien.
Ouais, là, au fait, il est lié à l'un des personnages qui refait surface, on va pas dire qui. On repart sur vraiment une histoire, effectivement, comme tu dis, centrée sur Dick Grayson.
Ouais, mais puis bah, de toute façon, il y a aussi ce concept de cette espèce de guerre des gangs qui s'est engagée dans Battle for the Carl,
Oui,
qui
qui continue.
continue à travers Batman, chose que l'on ne voit pas du tout dans Batman et Robin. Grant Morrison s'est vraiment mis en marge de ce côté-là. Lui,
Oui,
c'est
oh,
vraiment
il fait son truc de son côté.
c'est vraiment à côté, alors que là, c'est vraiment centré avec ce qui a été commencé par Tony Daniel.
Ouais. Bah, de toute façon, Joe Winnick et Tony Daniel vont bosser assez, vont vraiment aller de pair, quoi, en fait. Il y aura des épisodes de Tony Daniel pendant que Joe Winnick fera autre chose.
Mais il y a une chose qui est bien, c'est le fait qu'on insiste sur le changement de méthode de Batman et que tout le monde s'en rend compte d'ailleurs.
Oui, souvent ils disent que bon, il n'a pas la même voix, il n'a pas la même façon d'agir,
Il n'a pas la même taille non plus, les gens
il
le
n'a pas la
voient
même taille.
bien.
Non, puis ce que je trouve super bien pensé, c'est pas Morrison justement qui en parle, c'est Judd Winnick. Judd Winnick dit mais cette cape est bien trop lourde, j'ai pas la même manière de me mouvoir, comment je vais faire, etc. Donc il y a vraiment
Mais
des problèmes avec le costume,
Si,
et
si, enfin, Grant
ça c'est
Morrison
intelligent.
l'abordait aussi, je crois, dans Batman et Robin. On y faisait référence, je crois, à la cape.
Ouais, mais alors plus vite fait, parce que là, il y a
Beaucoup plus
carrément
vite
tout
fait,
un
oui, bien
dialogue,
sûr.
quoi.
La relation Dick-Alfred est vraiment bonne.
Oui, aussi.
Parce qu'il n'y a pas cette notion, pas autant en tout cas, de maître servant, enfin en tout cas serviteur plutôt, qu'il y a entre Bruce et Alfred. Même si Alfred est une sorte de père de substitution pour Bruce, il y a vraiment ce côté maître-serviteur. Alors qu'avec Dick, il voit plus Alfred, j'ai l'impression, soit comme un grand-père, soit comme un grand-oncle. C'est pas exactement la même relation qu'ils ont tous les deux, et je trouve ça intéressant. Et là, elle est bien mise en avant.
Tout à fait, ouais. Et là encore une fois, il se pose des questions quant à Damian. Je trouve que c'est aussi bien traité que ce
Oui.
que fait
Bah,
Morrison
on
dans
voit
le.
quand même l'espèce d'entraînement entre
Oui, voilà.
Dick et Damian. Donc, bien sûr qu'on voit un petit peu, on voit un petit peu Damian, mais on le voit pas agir en tant que Robin, et on le voit pas. Enfin voilà, c'est Batman qui agit seul, et moi, voilà, je préfère, quoi.
Bah moi aussi. De toute façon, j'ai jamais été tellement fan de Robin,
Mais
quelle que soit l'incarnation d'ailleurs de Robin.
je n'aime pas ce Robin, en fait, donc voilà.
Oui, puis alors celui-là encore pire que les autres, bien
Mais voilà,
sûr.
non, mais je n'aime pas ce Robin du tout, donc les autres me dérangent pas, celui-ci, oui. C'est sa mentalité de petit con, quoi,
Ouais,
qui...
exactement. Mais enfin, d'une manière générale, je préfère de toute façon Batman tout seul en solo, quoi. Vraiment, je trouve ça. Enfin voilà, les histoires les plus passionnantes, je trouve, c'est les histoires où Batman est amené à
Quand
enquêter
Batman
tout
fait
seul.
solo, effectivement.
Voilà, quand Batman fait solo pour faire une référence à Geneviève Coulon, il en fallait une, il en fallait
Ouais,
bien
il en
une.
faut. Donc bah un Batman Universe plus sympa quand même que Battle for the Carl, qui était quand même assez limite, honnêtement.
Ouais, non,
Moi
non, non, mais
personnellement, je préfère.
là, Zine quand même qui reprend du poil de la bête et qui est intéressant. Et encore, je pense que ça va évoluer dans les prochains mois et qu'il va y avoir des choses encore plus intéressantes.
On verra bien. En tout cas, si vous aviez pas, si vous hésitiez avec Batman, commencez avec celui-ci, donnez-lui sa chance. Vous verrez une nouvelle série avec Grant Morrison, qui a un ton différent. Vous verrez aussi la nouvelle série Batman. Voilà l'occasion de se faire un avis, quoi.
Exactement. Et alors, bien sûr, Panini t'arrive pas d'éloge sur Grant Morrison. Il parle, je crois qu'il ne parle absolument pas de Jude Winnick au scénario. Et pourtant, moi j'ai préféré, peut-être comme
moi
toi,
aussi.
L'épisode de Jude Winnick
J'ai
que
préféré
ce
son
qui
épisode.
vient. Donc voilà. Et par contre, ils ont mis le petit logo, le petit, comment dire, le petit macaron pour dire qu'effectivement, c'était bien de commencer par ce mensuel-là. Et d'ailleurs, c'est vrai, hein,
Oui.
franchement. Vous pouvez y aller là. Si vous
Oui,
êtes
parce
jamais
que.
mis à Batman, c'est le moment.
Et même si vous n'avez pas lu Battle for the Cowl, c'est tout à fait compréhensible. Allez,
Et
on
on passe.
passe à la suite. Le Spider-Man hors série numéro 32. Ça contient la mini-série en 6 parties, Spider-Man The Clone Saga. C'est écrit par Tom DeFalco et Howard McKee, donc des anciens de Spider-Man, hein, vraiment. Au
Oui,
dessin,
de
Todd
l'époque, en
Nock.
plus de la
Ouais,
saga du clone, surtout.
ben voilà. Au dessin, Todd Nock et à l'ancrage, Victor Olazabal. Donc c'est la saga du clone, réécrite et redessinée, pardon, et surtout légèrement modifiée par rapport à l'original. Enfin, quand je dis légèrement, c'est ironique.
Oui, effectivement. Bon, pour resituer, ça a été vendu comme, initialement, comme ce qu'aurait dû être la fin de la saga du clone à l'époque.
Parce qu'aurait dû être la saga du clone dans l'ensemble, puisqu'il y a
Ouais.
toute une page en fait, alors je ne sais pas s'ils l'ont traduit en français, mais il y a toute une page dans le premier épisode US qui nous explique que de toute façon certains ont aimé, certains ont détesté, etc.
Oh
Et qu'en
non, là
gros.
du tout, non. Là on a l'édito Panini et c'est tout.
Voilà. Et que en gros, tout le monde s'accorde à dire malgré tout que ça a quand même été trop long. Mais vu le succès, bah il a fallu continuer, etc. Et donc voilà ce que ça aurait dû être au départ. Enfin, c'est soi-disant
Alors, bon.
l'histoire telle qu'elle aurait dû être, c'est-à-dire en 5-6 parties maximum, ça ne devait pas prendre 2 ans et demi,
On
3 ans.
peut couper court à ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pour avoir la vraie version, il y a un site excellent sur Internet que je vous engage à checker si vous lisez en VO, puisque c'est en anglais, c'est The Life of Rayleigh. Donc comme Ben Reilly, The Life of Rayleigh, vous tapez ça sur Google, vous trouverez le blog, puisque je crois que maintenant c'est sous forme de blog.
C'est un blog, oui.
Et vous aurez vraiment des tonnes et des tonnes de pages super passionnantes sur, enfin pour ceux qui s'intéressent évidemment, sur au fait toute la genèse, sur ces 2 ans en fait, chroniquée par Glenn Greenberg, je crois, qui bossait à l'époque à Marvel, qui a chroniqué ça sur 2 ans en fait, qui a vu l'évolution de la saga du clone du début à la fin, et qui nous parle vraiment de ce qu'on fait chacun des auteurs là-dessus. Donc là, c'est bien différent de ce que ça aurait dû être. Je te l'assure, c'est pas du tout comme ça que ça aurait dû être. Et ma plus grosse complainte par rapport à cette mini-série, c'est que résumé en 6, c'est trop peu, quoi. C'est on passe à des trucs, mais d'un seul coup, tu vois, il retrouve son clone, ça devrait lui faire un grand choc, mais finalement, bon, bah pas tant que ça. Et puis tout de suite après, le clone, c'est devenu le meilleur pote de Mary-Jeanne. Enfin, vraiment, on saute tellement d'étapes, ça va tellement vite, il y
Oui,
a tellement
en
de
même temps,
raccourcis.
c'est en 6, quoi.
Oui.
Il
Ouais, mais
fallait bien faire des
c'est
raccourcis
dommage,
quelque
c'est
part.
dommage parce que, au fait, tout le charme de cette saga, c'était quand même sur des Voilà quoi, il y avait des parties quand même vachement importantes, et là c'est tellement raccourci que finalement, bah ouais, enfin voilà quoi,
Moi,
j'ai.
franchement, je vais le dire tout de suite, j'ai plutôt bien aimé cette mini-série. Ça m'a vraiment,
Donner envie de relire la vraie?
ouais, voilà, ça m'a rappelé des bons souvenirs, sachant qu'en plus, Todd Nock fait un boulot qui est plutôt sympa en reprenant des images assez iconiques de la saga du
Oui,
clone, la
c'est
rencontre
vrai.
entre Ben Reilly et Peter Parker, le moment où ils s'empoignent, prêts à se mettre sur la gueule tous les deux. Il y a plein de scènes comme ça où tu dis, ah ouais, c'était l'image qu'il y avait dans l'épisode à l'époque et tout. Donc,
C'est vrai.
déjà, rien que pour ce côté-là, il y a un gros côté nostalgie qui marche bien en tout cas. Ça permet aussi aux gens qui ne connaissaient pas la saga du clone et qui n'ont pas les moyens de s'acheter les omnibus qui sont sortis chez Panini, parce que mine de rien, ça vaut la peau du cul. Bon, pour épiloguer sur le fait qu'il n'y a pas tout, hein, on va pas le faire. Ça coûte cher. Là, c'est un moyen d'avoir une idée de ce qui s'est à peu près passé, même si c'est
Ouais, mais
différent. Même si c'est différent, je te l'accorde, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est vrai que ça donne une idée. Ça, pour
ça
moi, ça
donne une
donne
idée, mais
envie de lire.
pourquoi se contenter de ça, tu vois, alors que vaut mieux à la rigueur lire l'original. Mais alors, bien
Bah,
sûr, il y a une différence de
pourquoi?
prix, mais
Bah,
si
la
tu veux,
différence de prix est quand même sacrément énorme.
oui.
150 euros, et là, je crois que c'est à 4,80. Voilà, ça donne une
Non,
idée.
c'est à 5,60.
5,60,
5,60.
ouais, bah, 5,60, 150 euros, le calcul est vite fait. Ce n'est pas ce qui s'est...
Pourquoi 150? 65 par omnibus, ça fait allez, 130, on va dire.
Ah, j'ai compté 75 en fait. Pardon.
Ah oui, non, c'est 65 l'omnibus,
D'accord.
donc 130 au total. Mais moi, justement, je dirais, pour quasiment conclure là-dessus, que cette mini, ça vaut ses 5,60 €, mais la saga du clone original, pour moi en tout cas, ça vaut ses 130 €, tu vois. Donc voilà, et puis bon, c'est pas la même dose de lecture, comme tu dis, là il y
Non,
a 6 épisodes,
c'est pas la même dose de lecture, mais
il y en a une cinquantaine, quoi, dans les deux omnibus, en
je
tout.
pense aux gens qui ne connaissent pas la saga du clone parce qu'ils étaient trop jeunes à l'époque, parce qu'ils n'avaient pas commencé le comics à l'époque, etc. C'est un moyen d'avoir une sorte de résumé, même si les choses ne se sont pas passées comme ça, mais j'imagine que les éditos et les postfaces de
Oui,
chez
bien sûr.
Panini
On le
expliquent
précise.
peut-être les choses différentes par rapport à la version originale. Pour moi, c'est un bon moyen de découvrir une saga qui est quand même mythique, même si décriée par certains ou adorée par d'autres, peu importe. C'est quand même une saga mythique qui a compté dans l'histoire de Spider-Man. C'est franchement un bon moyen de la lire pour pas trop cher, même si elle n'est pas originale. Avec les infos de Panini, ça suffit amplement, je pense. Après, si ça vous a vraiment plu, jetez-vous dessus, allez-y, c'est franchement excellent.
Ouais, c'est puis enfin voilà, par exemple là on n'a pas tout ce moment où il y a vraiment des faux semblants du style est-ce que c'est lui le clone, est-ce que c'est
Mais oui,
moi, et puis
on voit pas le passage avec le docteur, Stuart Trainer, qui met le doute. On voit pas. Il y a plein de choses comme
il y
ça
a
qu'on voit
tellement de
pas.
choses, mais de toute façon c'est impossible, enfin il y a tellement
En
de
six épisodes, voilà.
voilà.
On voit pas tous les passages. Enfin, c'est juste effleuré le
Bah,
passage
au
où
fait là je dirais
on
c'est
voit pas
juste
Scarlet Spider
surtout.
en solo, par exemple.
Non mais voilà, non mais là franchement ça résume à la rigueur le premier omnibus, je dirais. Après le deuxième, c'est justement le moment où c'est totalement parti dans une autre direction. Donc là c'est vraiment un résumé du premier omnibus et avec une fin différente du coup.
Oui, tout est différent puisque les choses se passent pas du tout comme ça.
Ouais, il y a enfin c'est plus ça va,
L'exemple
plus
type,
ça va, plus c'est différent.
Octopus meurt vachement plus tôt dans la saga du clone.
Oui aussi. Et
Voilà.
puis même c'est bien plus bien mieux amené, enfin il y a toute une c'est dramatique la mort du docteur Octopus dans la saga du clone. Là on n'éprouve quasiment rien finalement,
Ouais.
c'est expédié
Moi,
en 3 pages.
la chose qui m'a le plus dérangé, vraiment, c'est la révélation, enfin la révélation, le moment où ils apprennent que Kane est leur clone.
Oui.
Alors que ça se faisait pendant le procès de Peter Parker à l'époque.
Oui,
Euh,
oui.
là, là, c'est fait comme ça pendant qu'ils sont avec le Jackal. Enfin, voilà, y a des choses qui changent,
Ah
mais
bah
malgré tout,
c'est
ça
super
rappelle
raccourci.
tellement.
Alors par contre ils ont peut-être changé quelques trucs en essayant de les améliorer. Par exemple l'histoire un petit peu absurde où le chacal voulait remplacer tous les êtres humains par des clones. Là au fait c'est remplacé par le fait qu'il veut créer une armée au fait de clones de Spider-Man. Ce qui est logique puisque s'il avait une armée de clones de Spider-Man à son service, il serait super puissant puisque Spider-Man étant super puissant ce serait une armée de super-hommes quoi. Un peu comme Captain America.
Il y a plein de choses qui changent, hein. Tante May ne meurt pas, par exemple.
Oui, alors par exemple, la mort de Tante May, c'était mythique cet épisode.
C'était mythique. Moi,
C'est
c'était
extraordinaire.
le
Et on le lit
premier
maintenant.
épisode que j'ai acheté en français à l'époque, c'était ça. Je venais de me taper les anciens Spider-Man, puisque j'avais retrouvé les vieux Strange de mon père, donc les tout premiers, etc. Je me suis dit, tiens, je vais aller acheter un comic. Voilà, j'achète celui-ci, boum, la vieille Acclams. Bah, pour moi, c'était terrible. Je me dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe? J'ai raté plein de trucs.
Mais non mais tout ça pour dire que c'est bien mais voilà quoi, ça donne une idée mais faut vraiment se rendre compte qu'on peut pas avoir la même chose avec ça quoi, c'est pas
Ouais,
possible.
mais je pense que c'est quelque chose qui plaira autant aux noobs, enfin c'est dit gentiment, hein, c'est pas du tout péjoratif, que aux connaisseurs, quoi. Parce que on se rappelle des choses, parce qu'il y a tout ça, et puis parce que ça permet de découvrir un passage quand on ne connaît pas, quoi, même si c'est pas la réalité. Voilà. Donc, moi je vous engage à jeter un œil à ça, quoi. C'est
Moi
5,60, c'est pas
aussi, moi aussi.
excessif.
Mais ne vous laissez pas trop influencer non plus par ça. L'original, la vraie, c'était quand même autre chose.
Ouais. Quoique, méfiez-vous, peut-être qu'un jour, on nous dira que finalement, il va falloir oublier la Clone Saga et que ça fera date dans l'univers Marvel. On peut tous méfier avec Joe Quesada, faut
Ah non, mais
se
non,
méfier.
ça modifierait trop de choses.
Ah oui, mais...
Ça modifierait trop de. Bah non, liste. Regarde, avec la fin, ça collerait pas à ce qu'on a vu. Enfin, dans l'univers.
Oui. Et je me méfie. Je préfère prendre mes précautions.
Ouais. Bon, enfin, on verra.
Sait-on jamais. Joe Quesada étant assez fou. Donc voilà, donc bah malgré tout un bon petit hors-série, souvent de fois c'est assez dispensable. Là, ça l'est. C'est pas dans l'univers, c'est pas dans la continuité, c'est sûr, mais ça vaut le coup d'être lu, je trouve. Quelque chose à rajouter à ça?
Non, ben voilà, ça vaut, c'est 5,60 €, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais, ça fait plaisir. C'est
Voilà,
un petit vent de nostalgie.
ça fait plaisir, c'est tout ce qui compte de toute façon. Le fait que ça fasse plaisir à lire. Bien, on passe maintenant au dernier kiosque de la quinzaine avec le Marvel Universe numéro 23. Comme toujours, pas mal d'épisodes hein, dans ce numéro qui est toujours assez gros, ce qui fait à peu près 160 pages, hein, je crois, en général.
Pour toujours 6 €,
Non,
5,90 €.
5,60 je crois, ou 5,80. Je sais plus, de toute façon, c'est pas moi qui fais demander les prix français. J'en
Enfin,
sais
c'est pas
rien.
cher pour pas mal.
Ouais, donc on a 1, 2, 3, 4, 5 épisodes réels américains, mais un peu plus d'histoire en fait, puisqu'on a le dernier épisode qui est deux histoires. Le début, ça commence par Savage World of Scar, écrit par Christos Engage, dessin de Graham Nolan et Rayleigh Brown. Bon, c'est un petit épisode qui est sympa.
Ouais, qui apporte pas forcément grand-chose, si ce n'est que on voit un petit peu ce qui se passe avec Scar quand il était sur sa planète avant qu'il arrive sur Terre, puisqu'au fait ça se passe avant les épisodes qu'on a pu lire récemment de Scar.
Oui, puisque dans le Marvel Universe, il y a quand même beaucoup plus de retard qu'ailleurs dans le Marvel Universe. Enfin, c'est con de dire ça comme ça, mais voilà.
Oui, dans le magazine Marvel
Oui.
Universe, on est en
Voilà.
retard, en fait.
Par rapport au reste de l'univers Marvel que l'on peut lire tous les mois en kiosque.
Bon, en même temps. C'est pas très grave puisque il nous reste encore, ça nous fait encore de bonnes choses à venir.
Ce sera assez grave quand on attaquera la publication d'une prochaine série écrite par Ed Brubaker. Je ne veux pas dire son nom de manière...
Ah oui.
Voilà.
Ouais.
Ça risque de gêner un... Bon, enfin, on a
Bon,
l'habitude, hein,
pas
de faire comme
gravissime non
moi.
plus, mais bon.
C'est pas grave ici, mais c'est chiant. C'est chiant de ne pas avoir les trucs en même temps, quoi. Bon, bref, c'est pas grave. Bon, l'épisode, en gros, on a Gorgon, donc des Inhumains, qui est coincé sur la planète de Scar avec un membre de la garde impériale dont je n'ai pas retenu le nom, par contre. Bon, voilà, ils se retrouvent un petit peu sur une planète hostile et se retrouvent un petit peu obligés de s'allier pour pouvoir survivre.
Oui, bon, c'est un scénario assez classique, mais
Très
ça permet
classique, hein.
de croiser le Red Hulk, n'importe quoi, Scar, hein, le fils de Hulk. Mais alors, est-ce qu'il va rejoindre la guerre? Est-ce qu'il va rejoindre le conflit? Ou
Ah.
est-ce que c'était juste une apparition comme ça?
En tout cas, il y a des chances, peut-être avec ce que l'on voit à la fin, que les deux camps aient besoin de cette énergie, que ce soit Scar comme la planète Sakaar.
Bah, moi, je m'attendais pas à son arrivée au sein de cet event, donc pourquoi pas.
Et peut-être que ça aura lieu dans, non pas War of Kings, mais dans sa suite Realm of Kings.
Ah oui.
D'ailleurs, je crois que c'est ça. Il y a une suite qui s'appelle Realm of Kings, Scar ou je sais pas quoi, un truc comme ça.
Bon, bah, réponse dans les prochains mois.
Ouais. Moi, enfin, en tout cas, quand je vois un truc où il y a deux ennemis en guerre, enfin deux races aliens en guerre, qui se foutent sur la gueule tout le temps et qui se retrouvent obligés de s'allier sur une planète, ça me fait toujours penser à Enemy Mine, quoi.
À
Si
quoi?
je peux pas, ah, Enemy Mine, le film Enemy Mine, je sais pas si tu connais.
Oula, non, je l'ai pas vu.
Ah, c'est franchement un superbe film à voir, c'est vraiment un classique.
D'accord.
C'est vraiment excellent, mais bon voilà, ça atteint pas le niveau d'Enemy Mine malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, on passe à la suite. Bah ouais. War of Kings numéro 5, scénario de Dan Abnett et Andy Lanning. Dessin de Paul Pelletier, ancrage de Rick Meagher. En gros, ce sont les conséquences de la mort de Lilandra qui font que l'offensive des deux côtés s'accélère finalement.
Ouais.
On apprend que Maximus a créé une super arme pour pouvoir arrêter le conflit.
Mais quelle est-elle?
Et ça risque de faire pencher la balance en faveur des Inhumains.
Oui, jusqu'au prochain épisode où, à mon avis, il va se passer autre chose. Ça se termine sur, je crois, un petit cliffhanger,
Un
non?
petit cliffhanger qui nous annonce une énorme baston.
Mmh.
Entre les deux chefs, finalement, de cette les deux représentants en tout cas de chaque conflit,
Ouais.
de chaque côté du conflit.
Globalement, ça se passe assez vite cet épisode.
Passe assez vite. Médusa devient de plus en plus une sale conne,
C'est vrai, je trouve aussi.
franchement. Elle est détestable. D'ailleurs, il y a un moment où on le voit bien. Crystal dit que non, il faut pas utiliser cette arme, machin. On sent que Black Bolt hésite et on voit Médusa qui dit non, Black Bolt, il veut le faire, il veut le faire, il veut le faire.
Ouais.
Et enfin franchement, elle prend les décisions, enfin, c'est vraiment devenu la connasse, quoi.
Ah oui, puis il se passe quand même un truc. Un gros truc aussi dans cet épisode, qu'on peut pas révéler.
Donc voilà, bon, malgré tout, un bon épisode, hein, même si bah, on sent qu'on arrive à la fin et que on attend cette grosse confrontation pour le dernier épisode.
Ouais, mais j'espère que la fin sera pas aussi convenue que ça le laisse penser quand même.
Mais je sais pas, vu qu'il y a Realm of Kings ensuite, je suis pas sûr qu'on ait une réelle fin avec War of Kings. On verra bien.
Avec une happy end en tout cas, c'est pas
Ouais,
sûr.
que je pense que cette histoire va continuer encore un peu. Voilà.
En tout cas, ça reste sympa.
Ouais, ça reste sympa. C'est pas le meilleur épisode du manga mon goût, mais ça reste sympa.
Oui, c'est pas la meilleure saga non plus que Dan Abnett en D Lanning est fait. Mais bon.
Pour moi, le meilleur épisode, c'est le suivant, c'est le Guardians of the Galaxy numéro 16.
Oui, des deux, d'ailleurs.
Toujours Dan Abnett en D Lanning au scénario et au dessin et à l'ancrage Wesley Craig. Donc là, en fait, c'est la rencontre entre les Guardians of the Galaxy, en tout cas une partie des Guardians avec Star-Lord, il y a Jack Flag, on a Bug, Mantis, je ne sais plus qui d'autre encore.
Bah, ils sont pas nombreux, hein. Ils sont, je
Mais
crois,
ils sont pas tous. En
5.
gros, on n'a pas Moondragon, on n'a pas Phyla et on n'a pas Warlock non plus.
Voilà. On n'a pas les grosses têtes d'affiche, on va dire.
Ah, je sais pas si c'est des. Ah oui, il y a ni Drax ni Gamora d'ailleurs. Moi je sais pas, pour moi la grosse tête d'affiche c'est Star-Lord. Il y a
Oui, non, enfin,
Rocket Raccoon
on va
aussi.
pas dire ça comme ça. On n'a pas les plus balèzes, quoi, en tout cas.
Donc il se retrouve dans le futur et il rencontre les Guardians of the Galaxy.
Oui, les anciens, en fait.
Ouais, celle-là de la toute première série Marvel qui portait ce nom-là et qui était une équipe dans le futur. Une sorte de Legion of Super-Heroes à l'époque. Et donc là on a un épisode qui est franchement super sympa, où ils font tout un.
Ils sont super drôles aussi.
Ouais, bah
Super
bien
drôles.
sûr, c'est super drôle, ouais.
Avec la réaction de Star-Lord, justement, qui m'a fait mourir de rire.
Ah bah, de toute
C'est...
façon, entre Star-Lord et Jack Flag, enfin je veux dire, voilà, on a deux personnages ultra comiques, quoi. Puis on a Cosmo aussi qui ajoute pas mal à ce côté comique dans cet épisode.
Oui, puis c'est l'occasion de revoir ces anciens gardiens qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec les présents gardiens en fait. Hein.
Non, mais bon, on a Major Victory, alias Vance Astrovic, qui était le chef des Guardians of the Galaxy première version, qui s'est retrouvé téléporté à notre époque dans les premiers épisodes de la série,
Oui.
et qui du coup n'est pas là.
Ah bah oui, en plus. Donc il revoit pas ses anciens potes.
Voilà.
Mais
Donc non,
moi ça me rappelle
franchement.
surtout un Strange Special Origin avec où ils avaient republié au fait le premier épisode des Gardiens de la Galaxie ancienne version.
Qui était dans. C'était pas en fait dans Guardians of the Galaxy, la série elle-même, c'était dans Marvel Presents, je crois.
Ah oui. Et on
Numéro
voyait donc les
16.
quatre marcher côte à côte, arriver. Il y avait surtout, en fait, le personnage qu'on retient peut-être le plus, c'est l'espèce de gars assez massif avec une tête toute plate.
Ouais.
Voilà. Il a vraiment une tête qu'on retient, quoi.
L'épisode est vachement bien et en fait, ils s'aperçoivent des conséquences de cette guerre entre les deux factions, les Kree et les Shi'ar, va provoquer, enfin, disons que ça va provoquer dans le futur puisqu'ils y sont. Et c'est pas joli à voir, donc ils font tout pour essayer d'envoyer un message dans le passé. Voilà. Et la fin est juste excellente.
Ouais, je m'y attendais pas non plus.
Voilà, donc franchement, pour moi le meilleur épisode.
Oui,
Même
incontestablement.
si dans l'ensemble le mag est super bon, hein, mais celui-ci est
Bah, comme
vraiment au-dessus des
d'habitude, ouais,
autres.
mais enfin bon, faut à force, voilà, quoi. On est plus en plus exigeant et il faut faire des. C'est vrai que celui-là est meilleur que les autres, quand même.
Le suivant, c'est le Nova, volume 4, numéro 27, toujours Dan Abnett en D Lanning au scénario, et dessin ancrage d'Andrea DiVito.
Alors là, on est carrément plus dans l'action.
Ouais.
D'ailleurs, ça se lit deux fois plus vite,
Que
même trois fois plus
Guardians,
vite
ouais.
que
Facile, ouais.
Guardians.
Donc, Nova, Iranirael et Moro sont partis chercher Robbie, qui a emprisonné l'espèce de cousine de Gladiator.
Oui.
Et donc ils arrivent sur cette planète et bah, ils se retrouvent nez à nez avec les forces de Blastar, arrivées de la zone négative, qui vient prêter main forte à Vulcain pour le conflit. Voilà, grosso modo le résumé.
Oui, et ça se termine aussi sur un petit cliffhanger, on va voir ce que ça donne, mais moi je trouve que en fait Nova, bizarrement, il n'a pas une grosse place dans
Ouais.
le conflit.
Nova est vraiment en retrait hein,
Ouais.
dans cet event.
Ouais.
On a des infos, hein, comme par exemple, on avait vu que Blastar allait rejoindre le conflit. On l'avait vu dans War of Kings Warriors numéro 1, où il y avait eu tout ce. Ou c'était peut-être dans Darkhawk. Non, c'était dans Darkhawk, ouais, dans le dernier Marvel Universe qu'on n'avait pas vu, enfin qu'on n'avait pas chroniqué. Bref, il avait récupéré cette espèce de petit bâtonnet cosmique là, qui lui donnait pas mal de pouvoir, et on se demandait quand c'est qu'il allait arriver dans le conflit. Donc on le voit à travers Nova, mais pour le moment, ça n'a aucune incidence sur le reste de l'event, quoi.
Ouais. Bah ouais, écoute.
Donc je sais pas. Bon.
Oui, enfin voilà, ça me surprend en fait. Je m'attendais à ce qu'ils prennent un peu plus part au conflit, et puis finalement il reste un petit peu dans sa
Bizarrement,
série, quoi.
il prenait plus part dans les gros conflits
Bah,
quand
il
il
était
était
même quasiment le personnage principal, au fait, au
quand il
moins.
était tout seul. Alors que maintenant qu'il a vraiment un Nova Corps qui est refondé et où justement il pourrait débarquer en masse et être une force qui compte, bah là ils sont pas là. C'est étrange.
C'est bête parce que je pense que Marvel aurait pu avec Nova faire un petit peu ce que DC a fait avec les Green Lanterns, quoi, et c'est-à-dire l'incorporer aux grands événements cosmiques en faisant vraiment le chef de file, et bah non.
Bah oui, apparemment. Ou alors, bah, aura-t-il un jour un rôle plus prépondérant à jouer dans Realm of Kings? On verra. Dernier épisode du Max, c'est le War of Kings Warriors numéro 2. Scénario pour les deux épisodes, parce qu'en fait c'est scindé en deux, hein. Donc à chaque fois sur un personnage. On a une première partie sur Crystal, une deuxième sur Lilandra. Les deux scénarios sont de Jeff Herber, les dessins pour Crystal sont d'Andriana Mello, et pour Lilandra de Ramón Pérez. Franchement, l'un comme l'autre, c'est bof, quoi.
C'est dispensable.
Ouais, franchement, c'est dispensable. À
C'est
la rigueur,
sympathique, ça se lit, ça se
Ouais.
lit.
Ouais, ça
C'est
se laisse
bien ça,
lire,
c'est
c'est
bien pour une
sûr.
bande dessinée en même temps.
Ça se laisse lire, non, franchement, ça se laisse lire, mais c'est pas essentiel pour comprendre quoi que ce soit. Tout au plus, ça apporte un éclairage légèrement différent sur les personnages, ça me permet de mieux les apprécier pour certains, sauf quand on les connaît depuis des années, où on n'a pas besoin de ça, quoi.
Non, j'ai rien de particulier à en dire.
Personnellement, j'ai préféré l'histoire sur Crystal à celle de Lilandra,
Ah, moi
mais
totalement, oui aussi, mais
même si dans Lilandra, c'est sympa, on voit les broods.
ouais,
C'est tout.
c'est vrai qu'il y a des broods. Mais bon,
C'est tout.
il ne suffit pas de mettre des broods pour faire une bonne histoire.
Et puis bon, sachant que Lilandra est morte, on s'en fout.
Ouais, non, mais ça n'apporte pratiquement rien de plus à ces deux personnages de toute façon. Donc voilà, disons que ça clôture le mag sur une note un peu inférieure aux autres choses qu'on a pu lire dedans,
Ouais,
mais
bah un peu plus légère aussi.
ouais.
Donc
Ouais, mais est-ce que c'était vraiment utile de nous publier ça en français,
au
finalement?
moins, ils nous auront tout publié. On pourra pas gueuler.
Ah, il
Puis
manquera rien.
vu le prix,
Il manque
franchement.
rien, finalement, au
Ah non,
final.
il manque rien dans War of Kings.
D'accord.
Donc voilà. Puis bon, vu le prix et vu le nombre de pages, à la rigueur, s'il y a un épisode qui est un peu plus faible, c'est pas très grave.
Tellement pas, hein. De toute façon, Marvel Universe, c'est le mag à s'acheter tous les 2 mois en français. Déjà, même le rapport qualité-prix, comme tu dis, c'est imbattable.
Donc c'est clair.
On fera pas mieux.
Bien, bah ça conclut la partie kiosque de cette quinzaine et de ce mois d'octobre. On passe maintenant à la librairie avec deux seulement, deux sorties librairies qu'on a choisi de chroniquer. La première, c'est Iron Fist, tome 5. Avant-dernier tome d'Iron Fist,
Ah, je crois que c'était le
malheureusement.
dernier.
C'est le dernier de la série régulière, mais normalement, il y aura le Immortal Weapons qui devrait sortir
D'accord, ok, je
ensuite.
ne savais plus.
Qui est une sorte de prolongement, si on veut, à la série, en prenant un éclairage sur chacune de ses armes, donc Fat Cobra, The Orphan, etc.
Ok.
Donc dans ce tome, on a donc toute la fin de la série Iron Fist volume 4, épisode 21 à 27, la série s'arrête, elle était censée être en hiatus, c'est comme ça qu'on nous l'avait annoncé chez Marvel à l'époque, on mettait la série en hiatus le temps de sortir Immortal Weapons, et la série revenait après, ça
Et
fait un an et
finalement, non.
demi, elle n'est jamais revenue.
Et voilà.
Donc,
Ça arrive
faut pas
souvent.
compter dessus. À mon avis, c'est mort. Voilà.
Ouais.
Donc, pour tous les épisodes, on a Dwayne Swarzynski au scénario. Et on a Travel Foreman pour les parties qui font avancer l'histoire et pour les scènes. Bah oui,
On pourrait croire
puisqu'on.
que les autres ne font pas avancer
Bah,
l'histoire, mais...
les autres, ce sont en fait des contes
Oui.
à la manière qu'on a eu sur d'anciens
Exactement.
Iron Fist. Le premier est signé Timothy Green au dessin et le deuxième est signé Kano.
Bah, de
Voilà,
toute
donc, bah.
façon...
Vas-y, vas-y.
Non, non, je disais, on va peut-être déjà commencer par résumer la fin, en fait, de l'intrigue principale. Grosso modo, Iron Fist est en enfer, lui aussi.
Oui, bah oui, puisqu'ils ont ils étaient partis tous, toutes ces armes, comme Iron Fist, donc comme je disais, Fat Cobra, etc. Ils étaient partis chercher cette fameuse huitième cité.
Voilà, la 8e cité, dont on a appris l'existence dans le précédent arc.
Exactement. Peut-être même dans l'arc d'avant, je crois.
Ah oui, d'accord.
Oui, on apprenait en l'arc d'avant, je crois. Et bah ils la trouvent et ils y vont. Et il s'avère qu'en fait c'est l'enfer. En tout cas, une sorte d'enfer.
Ouais. Et alors c'est assez space quand même, je trouve, cette série. C'est-à-dire qu'elle
Bah.
est vraiment, c'est vraiment un ovni parmi les séries mainstream. Déjà, bah, tout ce qui est la partie graphique, ça me fait penser à du, un petit peu à des BD européennes, au fait. Je sais
Ouais.
pas si t'as déjà ressenti ça.
Un petit peu, ouais.
C'est vraiment, vraiment très particulier. Puis bon, même le thème abordé, est quand même, différent de ce qui se fait d'habitude, quoi. C'est quand même assez, je sais pas, c'est assez mystique, assez, enfin voilà, c'est vraiment en marge pour moi de tout ce qui se fait à côté, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que la série n'a pas trouvé son public, quoi, parce que
Ouais.
c'est vraiment particulier, je trouve.
Mais c'est vrai que c'est vraiment plus mystique que super-héros, quoi.
Ouais, puis est-ce que t'es même, voilà, c'est vraiment le côté graphique aussi qui différencie des autres séries. Enfin, c'est très particulier quand même, hein. C'est pas de l'indé, mais ça pourrait, quoi, quasiment.
Oh, j'irai peut-être pas jusque-là, moi. Moi, je sais pas en même temps.
Ah bah il faut choisir, Steve.
J'ai pas vu ça comme ça, sous cet angle-là, donc.
Ouais, je sais pas. Enfin, franchement, moi ça me déstabilise un peu, Iron Fist. Surtout là, cet arc qui était vraiment particulier.
Mais même si l'arc est, enfin, en tout cas moi je l'ai trouvé sympa, j'étais un petit peu déçu par ce qu'était la 8e cité. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à autre chose finalement, à une
Ouais.
cité peut-être d'armes bannies ou ce genre de choses,
Ouais, je
ou
vois ce que
des
tu
armes
veux dire,
totalement
oui.
différentes, et finalement c'est pas réellement ça, quoi.
Bah, est-ce qu'il a pas été, encore une fois, pressé par la fin, est-ce qu'on lui a pas dit, tiens, finalement la série va se terminer maintenant et termine-nous cet arc vite fait, et
Ah, je
peut-être
sais
c'est
pas,
là.
d'entrée de jeu, dès l'épisode 22, c'était prévu pour être en 4 parties, donc,
Ah, d'accord.
et c'était déjà 4 parties, enfin voilà, enfin, le 22, 23, le 24 est un interlude sur un ancien Iron Fist, et le 25, 26, ça fait bien 4, quoi.
Ouais.
En même temps, peut-être que la décision était déjà prise d'avance, hein, je sais pas. Donc, comme on dit, on a aussi deux épisodes sur d'anciens Iron Fist, enfin d'anciens et futurs finalement, puisque le premier épisode est un épisode dans le futur qui se passe en 3099. Enfin bon, la date est pas réellement précisée, elle est précisée que sur la couverture américaine, mais c'est assez drôle.
Bah, déjà cet épisode, tu vois, pour moi c'est le moins déstabilisant, parce qu'on est quand même, bon, là dans du comics, un peu, enfin beaucoup plus dans du comics, quoi. Il y a des robots, ça se passe dans le futur.
Tu sais quoi? Moi, ce qui me fait rire, c'est que Swazinski se fait plaisir. Il mélange les personnages Marvel et les personnages DC pour faire d'autres Iron Fist. Dans celui-là, c'est clairement, un mélange entre Superman et Supergirl, quoi, puisque
Ouais.
Supergirl était restée coincée,
C'est ça, ouais.
alors qu'elle devait arriver sur Terre quasiment en tant que Superman. Elle est restée coincée dans son voyage, et du coup Superman est atterri sur Terre bien avant elle, et elle est arrivée que des années après. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé, quoi. Arrivée dans une capsule, on envoie un enfant, enfin voilà, c'est vraiment ça que ça m'a fait penser. Et pour le deuxième épisode sur un autre Iron Fist, on dirait un Green Lantern, quoi. En plus, les constructions qu'il fait sont vertes.
Ouais, c'est
À moi,
vrai.
ça m'y a fait penser tout de suite.
Ouais.
Et j'ai l'impression qu'il s'amuse à mélanger des côtés de chez DC, sur ce personnage-là.
Bah ouais, sans doute,
Il se fait plaisir, quoi.
mais en tout cas ces épisodes-là, tu vois, c'était, enfin je suis rentré dedans bien plus, quoi. C'était voilà, il n'y avait pas ce côté déstabilisant que j'ai ressenti sur le dernier arc de la série, quoi.
J'ai particulièrement aimé le deuxième épisode avec le Iron Fist Lantern.
Ouais.
Je vais l'appeler comme ça,
On va
hein.
l'appeler comme ça.
Notamment grâce au dessin de Kano que j'adore. Sur Iron Fist, je trouve excellent. Chaque fois qu'il est passé sur la série, on a eu des super épisodes. On a donc cette fin d'histoire avec la 8e cité, et puis on a le dernier épisode qui est un épisode double, qui est une conclusion à la série.
Ah oui, c'est vrai qu'il y avait celui-là aussi avec bah ouais.
On va pas trop en parler, puisque
Non,
sinon on
oui.
révèle un peu le plot général, donc voilà, on va essayer de taire le truc. Bon, c'est une conclusion assez simple.
On va dire une fin ouverte, quoi.
Ouais, voilà, bah comme il pensait être en hiatus, il se laisse quand même des possibilités, qui finalement, voilà,
Voilà, il
peuvent
laisse des
très
portes
bien
ouvertes qui
aussi
finalement resteront
ouais,
bien fermées.
qui peuvent très bien conclure une série et s'arrêter là. Donc, je trouve à rigueur le dernier épisode est peut-être celui qui m'a le plus déçu. Parce que je m'attendais à quelque chose, tu vois, vu que c'était un hiatus, je me suis dit peut-être qu'il va y avoir un petit cliffhanger ou quelque chose, mais non, on n'a rien. Je suis un peu décevant.
Ben voilà. Il t'aura rien dit.
Malgré tout, ça reste pour moi un bon tome, et pour moi cette série est vraiment très très bonne, quoi. Bah, c'est sûr qu'il y a eu une baisse depuis le départ de Fraction. Swarovski a un style différent, mais ça reste pour moi quand même quelque chose de super bon à lire.
Bah oui, enfin moi je trouvais que enfin son style était certes différent dans le précédent arc, mais voilà, j'accrochais quand même. Et là là voilà, là, il est vraiment allé dans un délire je trouve un peu différent de ce qui se faisait d'habitude sur le personnage. Enfin je sais pas. Un peu trop poussé et un peu trop poussé peut-être le côté mystique et puis en plus les dessins n'aidaient pas, quoi. Est-ce que t'as bien aimé toi les dessins justement? la partie graphique.
J'ai pas trouvé ça désagréable.
Ouais, enfin, c'est pas désagréable, mais
À part les dessins de la femme sur le dernier épisode, puisque le dernier épisode est dessiné à moitié par Travel Foreman et à moitié par David Lafemme.
Moi, ça m'a pas trop gêné, tu vois, le dernier.
Et j'aime pas du tout le style qu'il donne au visage, avec des cils vraiment prononcés. Ça donne un peu des têtes de poupons à tous les personnages, et j'aime pas trop.
Mais en tout cas, il y a plus qu'à attendre, bah, comme tu disais, la mini, quoi.
Là, j'espère que Panini va bien nous le traduire. Normalement, ils avaient dit qu'ils le feraient, mais
si ça fonctionne. Enfin, si le titre vend bien, mais apparemment, il doit bien vendre.
Il reste qu'un épisode, donc. Enfin, il reste qu'un seul tome à sortir. Donc voilà. Dans le dernier épisode de Iron Fist en VO, on avait un preview du premier de ces cinq numéros Immortal Weapons. C'était sur Fat Cobra. Et franchement, ça a l'air d'être assez sympa. En plus, c'est écrit par Jason Aaron, en tout cas pour celui-ci. Donc voilà, franchement, quelque chose de plutôt sympathique.
Ça peut donner effectivement un résultat probant. Même sympa, d'ailleurs, on va dire.
Voilà, donc moi j'encourage la lecture d'Iron Fist. Bon, si vous n'avez pas suivi, prenez pas ce numéro-là,
oui,
perdu, c'est pas la peine.
Oui, voilà, exactement.
Mieux vaut commencer la série, c'est peut-être la palissade, mais par le numéro 1, quoi.
Par Fraction, tout simplement.
Bah, c'était Brubaker au départ.
Ah oui, c'est vrai, c'était Brubaker.
Brubaker, puis Brubaker et Fraction ensemble, puis Fraction et enfin Swierczynski.
Et alors finalement, si on devait faire un petit bilan, lequel des trois, pour toi, a mieux tenu le personnage?
Fraction.
Ah, d'ailleurs, ouais. Je croyais que t'allais lire Brubaker, en fait.
Non, Fraction. Pour moi, le meilleur passage sur toutes les séries, ça reste quand même le passage du tournoi.
Mmh. D'accord.
Le tournoi des sept cités est pour moi le meilleur arc. Mais quoique les épisodes en plus, les épisodes solo d'Orson Randall étaient vraiment bons aussi. Ah, il y a vraiment eu des très bons passages dans cette série. Dommage
donc,
que
okay.
Bah, c'est fonctionné.
Ok. Bah moi, je pense que, alors j'ai pas tout lu, j'en ai lu que certains, les premiers, donc je pense que Brubaker, enfin voilà, je dirais peut-être Brubaker.
D'accord.
En même temps, c'est quand même lui qui a ressorti vraiment le personnage du placard, hein, après.
Oui, c'est sûr, c'est sûr.
Après de longues années de rien, quoi.
Bah, juste d'apparition par-ci par-là, quoi.
Oui. Essentiellement dans Daredevil.
Et puis, bah, voilà, si on fait un mix de nous deux, on obtient le tandem Brubaker Fraction, qui est la meilleure partie de la série.
Voilà, je sais pas comment je dois le prendre. C'est de quel de nous deux qui va partir, en fait?
Je ne sais pas.
Bon, c'est toi, Steve, allez, hop, avoue que tu vas partir. Regarde, t'es arrivé en premier, donc c'est toi qui pars. Si tu fais comme Brubaker.
Peut-être, oui.
Donc bah, voilà, donc, le prochain numéro, vous me retrouvez avec, je sais pas, avec Sam. Steve nous annonce son départ, en fait, sur Iron Fist.
Oui, bah oui. C'était un moyen détourné. Allez, on passe à la dernière review de cette quinzaine. C'est le Big Book Superman New Krypton. Dans ce Monster, et ben, beaucoup d'épisodes. 11 au total, je vais vite fait faire un petit listing de tous les épisodes qu'on peut retrouver. On a donc le New Krypton Special qui démarre la saga. On a un numéro spécial Superman Spell Jimmy Olsen, un numéro Adventure Comics The Guardian Special, et les séries Action Comics 871 à 873, Superman 681 à 683, et Supergirl 35 et 36. Voilà, pour l'ensemble des numéros US contenus dans ce Big Book.
Dans ce Big Book,
je sais pas trop.
Et qui, comme tu disais, lance, enfin c'est le coup d'envoi de cette énorme saga, cet énorme crossover à l'ancienne, peut-on dire, puisque c'est un crossover qui s'articule essentiellement autour des titres principaux de la franchise Superman.
Bah, uniquement même d'ailleurs. Enfin non, pas uniquement, puisqu'on aura eu quelques parties par la suite, hein, dans post New Krypton, en tout cas, enfin dans les conséquences qu'il y aura de cet event, on aura des parties dans Adventure Comics et ce genre de choses, mais.
Ouais. D'ailleurs, je dis crossover à l'ancienne, mais pas tout à fait, puisque finalement, il y aura une mini-série, en fait.
Oui, New Krypton. Non. Mais oui, elle se passe après, en fait.
Oui.
Donc, ouais. C'est une conséquence directe de ça.
Ouais. Mais enfin, je crois que ça fait partie de cet event. D'ailleurs, enfin, les fans de Superman le savent, sur le numéro, enfin, sur les couvertures, t'as toujours un numéro, en fait, pour te resituer, et quelquefois, ça peut monter jusqu'à 50, etc., quoi.
Bah, chose qui avait disparu et qui a été remise en place juste après New Krypton, justement. Ou pendant New Krypton, d'ailleurs.
Oui, je crois que c'était pendant. Puisque là, on voit sur les couvertures partie 1, partie 2, partie 3, et puis ça monte jusqu'à 20, 30,
ouais,
40.
Le petit diamant.
Exactement.
Le petit diamant d'à l'époque des années 90, d'ailleurs.
Des années 90, puis même encore en 2000, 2001, je crois que ça existait encore sur les titres. À l'époque de Jeff Lobb.
C'est arrivé dans les années 90.
Oui, avec, je crois, avec Doomsday. Avec la mort de Superman.
Oui, un petit peu avant même.
Bah peut-être depuis Man of Steel, en fait.
Ouais, je sais plus. Ça remonte à loin, là.
Bref.
Au scénario, pour toute cette saga, on retrouve James Robinson, Jeff Jones et Sterling Gates. Dans les dessinateurs, on retrouve pêle-mêle hein, Gary Frank, Renato Guedes, Pere Perez, Jesús Merino et Pete Woods.
D'accord, il y a juste pêle-mêle que je connaissais pas.
Oh,
enfin, enfin, oh. Oh, oh. Humour, humour, quand il nous tient.
Donc,
ne nous lâche pas.
C'est
le plus dur sera la chute.
Ouais, d'accord. Voilà, c'est un bel enchaînement.
Je sais plus comment tu me fous un violon.
Superman t'inspire, dis donc.
Bah oui et non, quoi. Enfin bon.
Moi, je dirais la phrase classique de Superman, hein, vu après tes blagues, up, up and away.
Hein, ah oui, je croyais que t'allais dire up, up, up and down. Voilà. Ça aurait été encore mieux, je pense.
Oh là là. Bref, donc à la suite de l'arc sur Brainiac que vous avez pu lire au mois d'août, Superman a fait revenir à sa taille normale la cité perdue de Kandor.
De Kandor qui avait été réduit, oui, qui avait été réduit.
C'était les Micronauts, quoi. Ouais.
Voilà, par Brainiac, et du coup, et bien maintenant ils sont à nouveau libres. Et ça pose problème puisque bah ils sont sur Terre du coup, à côté de la forteresse de Solitude.
Oui, parce qu'il les a relâchés à cet endroit.
Exactement. Donc bon bah Kandor s'installe là. Ils sont, je crois, alors ils disent le chiffre.
100 000 là.
100 000 Kryptoniens.
100 000 Kryptoniens sur Terre.
Voilà. Déjà, elle dit comme ça, c'est vraiment le pitch de base de New Krypton. 100 000 Kryptoniens sur Terre. Ils ont tous des super pouvoirs. Que faire? Que faire?
Est-ce qu'ils n'ont pas les valeurs morales. Ils n'ont pas les valeurs morales de Superman puisqu'ils n'ont pas été élevés par les Kent.
En plus, oui, ils ont vraiment leur philosophie de Kryptonien. Et justement, ça va jouer des tours à la fois aux Kryptoniens et aux Terriens. Et donc, est-ce qu'ils vont réussir à cohabiter? Eh bien, voilà, c'est toute la problématique au fait de New Krypton.
C'est franchement super bon.
Ah, bah ça me fait plaisir que tu dis ça parce que moi, je pensais que t'allais être plus réservé.
Ah non, du tout.
D'accord, ok. Mais alors,
moi, j'ai franchement vraiment bien aimé, quoi.
Oui, et tu savais que ça allait être aussi bon ou tu t'attendais à rien?
Non, je savais que c'était bon.
D'accord. D'accord, bah. Il ménage ses effets, le Steve, hein, quand même.
Je savais que c'était bon, mais je ne l'avais pas lu par moi-même et je l'ai lu maintenant et je confirme, c'est vraiment bon.
D'accord. Non, alors, en tout cas, j'ai adoré. J'ai adoré ce début de saga, peut-on dire, puisque on va avoir des suites à tout ça.
Dans un prochain Monster ou Big Book, je ne sais pas comment ça s'appelle chez DC. Big Book, je crois. C'est Big Book, ouais.
Et je crois que le prochain, ce sera donc la mini-série World of New Krypton.
Plutôt la maxi-série, en fait, puisque c'est 12 épisodes.
Ouais. Oui, c'est vrai.
Donc, nous n'aurons pas, malheureusement, apparemment, les Action Comics et Superman qui paraissaient en même temps, où justement Superman n'était pas dedans.
Ouais, et on les aura pas du tout, ça.
Apparemment, non.
Et il y a un troisième Big Book qui est prévu.
Mais ça sera sûrement les crossovers qui clôturent cette saga New Krypton.
D'accord. Bon, quoi qu'il en soit, donc, est-ce qu'on peut révéler d'autres choses
Mais en fait, il y a une deuxième intrigue, hein, au-delà de cette intrigue sur les Kryptoniens. Il y a une deuxième intrigue qui finalement rejoint la première avec la personne de Jimmy Olsen et de Guardian.
Au fait, oui, Jimmy Olsen enquête sur les origines du Guardian.
Bah, en fait, là, c'est là qu'on voit le plot de... Ça, c'est plutôt la partie James Robinson, puisque ça fait aussi suite à son premier arc sur Superman, The Coming of Atlas.
Ouais, ouais, c'est
où,
vrai.
Pendant ce combat contre Atlas, Jimmy, qui photographiait le combat, voit un personnage qui était en l'air et qui surveillait le combat sans rien dire, sans bouger. Il a réussi à prendre une photo et il essaye d'enquêter sur cette personne. Qui c'est, pourquoi il était là, qu'est-ce qu'il avait à faire à regarder tout ça. Il sent qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Et donc il enquête là-dessus. Mmh. Finalement, les deux plots se rejoignent puisque d'un côté et de l'autre, enfin, on aboutit à la même chose.
Pas tout à fait, au fait. Moi, je me demande si franchement, en français, on n'aurait pas pu finalement se passer. Alors, ça aurait été dommage puisque c'est pas mauvais. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu se passer de cette intrigue avec Jimmy Olsen et puis le gardien finalement, puisque on va pas nous publier les épisodes comme tu disais.
Ça jouera par la suite. Ça jouera par la suite, crois-moi.
Ok. D'accord.
Donc c'est pour ça qu'il valait mieux les publier.
En tout cas, effectivement, deux intrigues assez distinctes, mais
disons que ça converge vers un même but, quoi.
Ça
on le voit pas
ouais.
ici, on peut s'en douter, et voilà, enfin, c'est assez facile à voir où ça va.
Ouais, mais en tout cas, d'un côté comme de l'autre, c'est très bon, c'est très très bon. C'est dommage parce qu'on a envie de raconter des choses sur ce qui se passe, parce qu'il y a plein de rebondissements. Franchement, c'est ça qui est vachement bien, c'est que à chaque partie, que ce soit dans Supergirl, dans enfin n'importe quelle série, En fait, il n'y a pas de partie pour rien, quoi. Tu vois à peu près la même chose dans
Non,
l'une et
c'est
dans
clair.
l'autre. Par exemple, il n'y a
Ouais,
pas une
ouais.
baston qui se passe dans l'une et tu vois la même chose dans l'autre. Et à chaque partie, là, il se passe vraiment un rebondissement qui relance totalement l'intrigue.
Bah, honnêtement, hein, c'est assez long à lire quand même. Bon, il y a quand même 11 épisodes hein, au total,
Et justement, c'est très bien.
dont,
Enfin, tant
dont des
mieux.
doubles.
Oui.
Mais ça peut se lire d'une traite. Enfin, moi, personnellement, je l'ai lu d'une traite, quoi.
Ouais. Franchement, ça peut se lire d'une
Et
traite. Ça fait deux bonnes heures de
ouais,
lecture.
une fois qu'on plonge dedans, on plonge dedans, quoi.
Ça fait environ, ouais, je dirais, deux bonnes heures de
Ouais, de
lecture, je
bonnes heures,
trouve.
ouais, je pense.
Bon, ça a un prix, évidemment, hein. C'est toujours 29 € les big books, maintenant. Mais là, ça les vaut.
Ah oui, non, puis voilà, vous avez quand même 12 épisodes, quoi.
Voilà. C'est-à-dire que si vous les aviez achetés, par
Enfin,
exemple, en
11,
VO.
réellement 11, puisqu'il
Ouais.
y a des doubles.
Mais en VO, ça aurait fait plus cher.
Bah, il y a des TPB, quoi, mais je crois que c'est en 2 TPB, de mémoire, New
Alors,
Capital.
faites un choix, sinon, oui, par rapport au TPBVO, voyez ce qui vous arrange. Et puis, bon, bah, de toute façon, si vous ne lisez pas de VO, il n'y a pas à vous poser la question.
D'un côté, moi, j'encouragerais peut-être à prendre la version Panini, puisque ça encouragera Panini à continuer de nous publier ce genre de choses.
En tout cas, oui, non, mais en tout cas, pour moi, la solution, hein, chez Panini, c'était, je le dis depuis longtemps, c'était de continuer à publier Superman en Big Books. Parce que de toute façon, on a tellement de retard, il y a tellement de matériel à publier, que pour moi, c'était la solution. Donc là, je suis très content que le premier des trois arrive, et j'espère qu'il y en aura d'autres par la suite.
Ben, moi, je suis content d'un côté, mais j'ai peur de la suite au niveau de la publication. Nous publier World of New Krypton d'une seule traite, sans nous publier les autres choses à côté, pour moi, c'est une connerie. Mais bon, voilà. Au moins, on a
On
quelque chose en
verra.
français, donc voilà.
On verra si c'est
Ben,
franchement gênant.
il y a un crossover en plein milieu de World of New Krypton, enfin, qui touchait toutes les séries Superman, qui s'appelle. Je vais pas donner le nom. Je préfère pas donner le nom, juste pour éviter un mini-spoil, ça peut donner quelques pistes, donc voilà. Mais il y a un crossover qui touchait World of New Krypton, Action Comics, Superman, et je crois Supergirl, mais là par contre je m'avance peut-être un peu. En tout cas, ça touchait toutes les séries, et vu que dans un big book on a 12 épisodes, on va avoir que World of New Krypton. Donc je sais, on aura peut-être même cette partie du crossover sans les autres, ce qui est complètement con, ou alors ils vont nous appeler l'épisode 6, puisqu'il fait partie du crossover, enfin c'est crétin quoi.
C'est vrai que c'est con. Oui, mais
Voilà.
en tout cas, bon, on va voir à la lecture, puisque moi je n'ai absolument rien lu de tout ça. Je vais voir si vraiment c'est gênant, si vraiment il y a des choses que je ne comprends pas.
La meilleure solution, qui ne serait pourtant pas celle la meilleure au niveau des finances, ce serait de nous faire un Big Book World of New Krypton, un Big Book Superman, un Big Book Action Comics qui sort tous les trois le même mois. Et là, comme ça, voilà. Mais bon, au niveau de la bourse, ça ferait super
Ouais, non,
mal.
mais moi, c'est non, ça m'énerverait de devoir passer d'un bouquin à un autre.
Ah ben oui, mais ça c'est la lecture américaine, hein. C'est comme ça.
Ah ouais, non, mais là, ce serait chiant. Non, non, autant publier les trucs, je veux dire, dans l'ordre de lecture, mais tout publier, quoi, comme tu dis. Donc, ouais.
Parce que là, on aurait tout le passage Action Comics et tout le passage Superman sans Superman réunis là aussi dans des big books et ce serait voilà, il y en aurait pour tout le monde quoi. Si vous voulez pas lire Action Comics, vous le lisez pas. Si vous voulez pas lire Superman, vous le lisez pas. Voilà.
En tout cas, ça aurait été dommage de rater ça parce que c'est vraiment très très bon. Ça me rappelle vraiment les grosses sagas, les gros crossovers en fait des années 90. Et bah du coup, ça fait vachement plaisir de lire ça.
On découvre aussi de nouveaux personnages, hein, bien sûr, parce qu'avec l'arrivée de ces 100 000 kryptoniens, il y a forcément des têtes qui ressortent plus que d'autres, et des personnages qui vont avoir une incidence sur l'univers Superman, dans les prochains mois.
Bah là en tout cas les deux kryptoniens qui ont le plus d'impact, c'est les parents de Supergirl.
Ouais, mais il y en a d'autres, hein, que l'on voit un petit peu, et justement leur identité est cachée, et ça c'est bien, on ne sait pas qui ils sont, et ça fera partie des mystères qui vont être révélés.
Et puis quel final?
Oui, quel
Quel
final.
final? Il se passe tellement de choses à la fin, on a vraiment envie de lire la suite, ça fait bien longtemps que j'ai pas eu envie autant de lire la suite sur une saga en mainstream.
Eh ben, il va
Honnêtement,
falloir
là.
patienter, puisque ce sera au mois de mars, je crois.
Ouais, mais honnêtement, là, tu me dirais la suite est dispo, je courrais en magasin l'acheter
Et
et
elle est
hop, la dévorer
disponible
d'une traite.
en VO. Elle est disponible en VO.
Oui, forcément. Forcément. Merci, Steve.
Je t'en prie, à ton service.
Non, mais par contre, pour combler les trous, et peut-être vais-je m'acheter les épisodes manquants en VO, en TPB.
Ouais.
Voilà. Bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, bah voilà, allez-y, c'est vraiment du très très bon. Et pour ceux qui ont commencé à lire Superman avec la saga Brainiac, alors d'accord, c'est pas le même prix, ça c'est clair et net, mais
Mais c'est la suite, hein. Franchement, c'est la suite.
Oui, c'est la suite et c'est tout aussi bon, voire mieux, finalement.
Je
Ah
peux
oui,
pas.
je sais bien que c'est Peaky Blinders, oui, mais
Non, mais
quand
parce
même.
qu'on sent quand même la patte James Robinson, notamment avec cette intrigue de Jimmy Olsen. On sent aussi la patte James Robinson dans la façon de raconter, et aussi la patte de Sterling Gates.
Oui, mais c'est pas gênant du tout, enfin en tout cas
Ah, c'est
c'est.
pas gênant, mais disons que c'est pas le même niveau que Brainiac. Brainiac, en plus, c'est qu'en 5 parties, donc voilà, enfin, je veux dire,
Bah moi je
là,
dirais
c'est vraiment
la
une
grosse
histoire sur le plus
différence
long
c'était qu'on
terme,
avait du
quoi.
Gary Frank. Là on en a juste au début, je crois.
Ouais.
Un autre moment aussi peut-être.
Oui, on en a deux fois dans l'épisode. Dans
En tout cas,
le
Reina
plan.
Dolgaidès, super, quand même.
Bah,
Enfin.
qu'on avait déjà vu sur Coming of Atlas.
Exactement. Et d'ailleurs, on retrouve le fameux personnage du général, et on en apprend beaucoup plus sur lui, d'ailleurs, aussi très intrigant comme personnage.
Oui, ça fait partie des plots dont je disais qui convergent tous les uns vers les autres.
Voilà. Et on retrouve Lex Luthor. On peut le dire quand même.
Oui. De même qu'on retrouve Brainiac.
De même qu'on retrouve Métallo. Allez, vas-y, essaye moi ça. Donc voilà, donc non, non, vraiment très très bon programme, très très bon big book, ça vaut, c'est cher, mais ça les vaut.
Bonne lecture en perspective.
Ouais, un bon moment.
Voilà, c'est tout pour les reviews de la quinzaine. On va passer maintenant à une grosse partie courrier des
Oh,
lecteurs,
ouais.
puisqu'on a reçu énormément de mails.
Oh là là, ouais.
On commence justement ce passage courrier des lecteurs avec quelque chose qui n'est pas un courrier, mais un message vocal. Alors, malheureusement, j'ai eu un petit souci technique. J'ai pas réussi à récupérer le message vocal et je peux pas le diffuser là. Parce que j'arrive pas à l'avoir d'une qualité satisfaisante. Le message au niveau de la qualité, ça allait, mais c'est juste que le récupérer et le retravailler me donnait pas une qualité qui, quand vous allez l'écouter, sera vraiment audible. Et donc je préfère privilégier quelque chose de super audible plutôt que voilà.
Ouais, un petit souci technique.
Voilà, j'espère que pour les prochaines fois, j'aurai pas ce genre de souci. Donc c'était un autre message de Goldo. Donc merci Goldo de nous rappeler.
Oui.
Justement qui répondait un petit peu aux questions qu'on lui avait posées. Il nous disait que déjà il lisait principalement l'univers mutant. Et l'autre question qu'il voulait nous poser, et ça s'adresse plutôt à toi, Benny, pourquoi ce comic shop en particulier, donc le comic shop dont tu parlais l'autre fois, celui dans lequel tu fais tous tes achats, plutôt qu'un autre, sachant qu'il y en a plusieurs autres qui sont assez réputés dans le coin?
Alors là, c'est tout bête, c'est vraiment une question de distance. Non, mais franchement, c'est ça, quoi. C'est vraiment, voilà, une question de temps et de distance. Et c'est le plus près. Du coup, je me suis familiarisé avec, on va dire, le tenancier. Et voilà, hein, c'est tout bête. Généralement, on s'attache à un comic shop du moment où on s'entend bien avec le.
Avec le gérant.
Avec le gérant ou en tout cas ou même les clients hein, parfois puisque ça arrive souvent c'est assez convivial
Ouais,
dans les
enfin.
comic shops de discuter un petit peu comics avec des fans.
Généralement, quand t'as un vendeur qui est un sale con, tu y reviens pas, quoi. Même si les gens
Exactement.
autour sont sympas, tu y reviens pas, quoi.
Exactement. Donc là en l'occurrence c'était le cas et je n'y reviendrai plus non je plaisante. Non 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 mais voilà c'est vraiment non mais ce qui est sympa voilà dans les comic shops c'est d'avoir un comic shop à côté de chez soi où tu trouves l'essentiel de ce que tu recherches et puis du moment qu'il y a des clients sympas que tu peux discuter comics une fois de temps en temps que le mec est cool enfin voilà c'est alors étrangement tu vois par exemple j'ai pas pris un comic shop où c'est la mode d'ailleurs les fameuses cartes au bout d'un certain nombre d'achats t'as une réduction
Oui, carte de fidélité, oui.
voilà carte de fidélité ouais. Et pourtant ça me manque pas c'est voilà c'est juste que l'endroit est convivial on va dire et c'est vraiment l'un des plus d'ailleurs c'est l'un des plus anciens comic shop de la place de Paris c'est pas le plus connu mais c'est l'un des plus anciens donc en plus il y a ce côté authentique on va dire que j'aime bien. Mais alors il y en a plein hein, sur Paris. Il y a la maison Arkham, comme ils l'appellent. La maison Arkham. ou l'hôpital d'Arkham, ça dépend des références. Puisqu'on y croise aussi des dangereux psychopathes. Mais bon, allez-y, hein, les tenanciers sont très sympas. Philippe et Philippe. Donc il y a la librairie de Conin, c'est celle que je fréquente aussi, dans le 15e. Il y a quoi d'autre? Les sempiternels albums. Pareil, alors c'est autre chose, c'est une autre ambiance, on va dire. C'est enfin voilà, il y a pas ce côté comic shop unique, quoi, qu'on retrouve vraiment dans
Oui,
les...
c'est plus le gros magasin type supermarché, quoi.
Exactement, oui, c'est
Face à
une
une petite
chaîne.
épicerie, disons.
Non, mais c'est une chaîne. Donc, il n'y a pas ce côté vraiment qu'on retrouve dans les comic shops où, qui ont été montés par par des fans de comics initialement, tout simplement. Voilà. Donc, bon, je dis pas que chez Album ils sont pas fans de comics, hein, mais je veux dire, c'est une chaîne. Donc, c'est pas pareil. Je trouve pas le même esprit quand je vais chez Album que quand je vais dans les comic shops, les deux que j'ai cités par exemple. Il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres, mais on peut pas tous les faire. Donc voilà. En tout cas, c'est cela que je fréquente. Voilà.
Ok. Et donc Goldo finissait son message en disant que bah, là où l'épisode on l'avait diffusé, on avait un petit peu tapé sur J. Scott Campbell. Et il me disait simplement que lui il trouvait Danger Girl excellent comme série.
Alors, j'avais
Et voilà.
acheté Danger Girl à l'époque. Ça avait été publié en français chez Semic, dans un album très affriolant avec l'une des Danger Girls dans une baignoire. Je m'en souviens encore. Ça réveille de grands
Non,
souvenirs,
je vais pas déraper. Je vais éviter de
de
déraper.
grands souvenirs de l'époque du lycée. Voilà, non, c'était sympa. Et franchement, j'ai beaucoup aimé Danger Girl. Je suis d'accord avec toi, Goldo. J. Scott Campbell est très bon, mais il est très bon quand il se donne les moyens de l'être. Et bah là, il avait fait toute une série qui était sympathique. Hein. Danger Girl, c'était cool, non, Steve?
Moi personnellement, je n'ai jamais lu. Donc
D'accord.
voilà, je vais
Ok,
pas
bah
donner mon
alors.
avis là-dessus. Non, moi, en fait, le gros reproche que je pourrais faire à J. Scott Campbell,
Bah,
c'est
c'est de se reposer
qu'aujourd'hui,
un petit peu, quoi.
ben voilà, le mec ne fait que des covers.
Voilà.
Il ne travaille plus comme comic book artiste, c'est un cover artiste uniquement. Et ça m'ennuie.
Bah, pour moi, c'est un petit peu de l'opportunisme.
Voilà. Alors, il y a des gens qui ne font que des covers, ou presque. Par exemple, chez Vertigo, Dave McKean, bon, ne fait pas que des covers, mais il fait beaucoup de covers. Son travail est vraiment connu surtout pour ses covers. Mais voilà,
Bah,
le mec
y a
n'a
par
jamais fait
exemple.
de séries régulières avant ce genre de choses-là.
Il y en a qui ont vraiment des dessins, enfin qui ont vraiment un style qui demande des heures et des heures de travail. Par exemple, Travis Charest, ça demande des heures et des heures de travail.
Bah, Alex Ross aussi.
Alex Ross, et pourtant, bon, ils font, enfin, ils essayent de produire des bandes dessinées, de faire pas mal de choses. J. Scott Campbell, on a l'impression qu'il se repose sur ses lauriers, que voilà, il
Bah,
fait
il
ses
ne
petites
vit que
couvertures.
des covers et des commissions.
Et voilà, exactement. Bon alors, il y en a d'autres qui vivent de commissions. Par exemple, John Byrne en ce moment fait beaucoup de commissions. Bah, quoique, il va reprendre Next Men bientôt. Mais il a vécu aussi beaucoup sur les commissions ces dernières années. Mais bon,
Ouais,
John
mais enfin, il
Byrne,
a fait énormément de
c'est John
séries
Byrne, quoi.
régulières, quoi.
Oui, non mais John Byrne, c'est
Voilà.
quand même un monument. Il a tellement fait de comics. J. Scott Campbell, finalement, voilà quoi. Ça fait de nombreuses années que qu'est-ce qu'il fait à part des couvertures, quoi.
Ben voilà. C'est un peu le souci.
C'est le reproche qu'on pourrait lui faire, mais ça n'enlève en rien à son trait, hein, sur Danger Girl, moi j'aimais bien.
Oui, bah, c'est vrai que moi j'ai du mal à le voir comme un artiste de comic book, quoi. Ça me gêne. Ça
Bah,
me
c'est
gêne les
un
gens qui
cover
ne font
artiste, on va
pas,
dire maintenant.
les gens qui ne font pas de séries régulières comme ça et qui ont une si grande aura, ça me gêne. Parce qu'il y a
Oui,
beaucoup de
parce
gens
que.
qui disent ah oh, c'est J. Scott Campbell, voilà, c'est super. Mais non,
Oui,
non.
parce que. Enfin voilà, maintenant je suis. Vraiment, franchement, je suis pas émerveillé par les couvertures que je vois de lui généralement. Hein.
Pas
Honnêtement.
toujours, il y en a qui sont très sympas, il y en a d'autres, franchement, c'est juste basique, quoi.
Non, j'aimais bien ces Danger Girl dans le sens où bah voilà, c'était son projet, c'était son truc, c'était sympa. Mais comme cover artiste, personnellement, je suis pas méga fan du type. Et voilà. Faudrait qu'il se rebooste un petit peu et qu'il propose autre chose.
Voilà, donc j'espère qu'on aura bien répondu à tes questions, Goldo. N'hésite pas à nous rappeler, hein. Et puis désolé de pas avoir pu diffuser ton message. Vraiment, c'est une histoire de problème technique où j'arrivais pas à récupérer le truc dans une assez bonne qualité pour pouvoir le diffuser. Voilà, je suis désolé. On passe maintenant au mail qu'on a reçu. Le premier mail de Kael Oula, j'espère que je le prononce bien, ou Kael Oula, je ne sais pas. Qui nous dit déjà félicitations pour votre podcast, continuez comme ça. Oui, on a l'intention de continuer comme ça. J'ai acheté ce mois-ci Batman Silence, et ayant
Voire
adoré.
même d'essayer de faire mieux d'ailleurs, hein, j'ai
Oui,
l'intention de dire.
bah, voilà. Donc j'ai adoré et je souhaite enfin, entre parenthèses, franchir le cap et lire le Bat-Univers. Vu le peu de choses sorties en VF, je vais donc me tourner vers la VO et j'aurais souhaité savoir si on pouvait trouver sur le net une liste de TPB existants ou des listes d'autres collections rassemblant des épisodes plus anciens, l'équivalent des Essentials chez Marvel par exemple. Aimerais aussi savoir quels sont les arcs intéressants, mis à part les classiques que sont Dark Victory, Long Halloween, Death in the Family, Killing Joke. Je pense par exemple aux arcs Cataclysme No Man's Land, Nightfall, Night Quest, War Crimes, War Games, qui en farfouillant sur le net sont les numéros qui m'intéresseraient le plus. Si vous avez d'autres idées, bien sûr, n'hésitez pas.
Alors,
Et savoir aussi, je termine vite fait, si les séries Robin, Nightwing, Catwoman ou autres valent le coup. Voilà, donc, bon, alors bah déjà, franchement, en français, il y a pas mal de choses hein, sur Batman qui sont sorties, mine de rien.
oui, si tu veux
Beaucoup plus.
franchir le cap, je dirais même tu peux franchir la cape
Wow!
avec voilà. C'était génial. Avec la place.
Oh, c'était minable. Oui, vas-y, continue.
Oui. Non, mais alors déjà, sache que, alors tu ne le sais peut-être pas, mais avant Batman Universe et avant Superman Batman, il y avait le magazine Batman, tout court, qui était mensuel, et Panini l'a sorti de 2005, je crois, à 2007 ou 2008. Et donc, ça contenait, par exemple, dans les premiers numéros, la fameuse saga Wargames dont tu parles, qui était, enfin, bien. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé cette saga-là. Et peut-être qu'en cherchant dans des comic shops, dans des back issues en français, tu pourrais retrouver ces numéros-là. Donc, ça devait être les numéros.
Alors là, Batman
Alors oui. Alors
680, je
là, par
crois.
contre,
Non,
oui,
pas
je
680,
crois. Hein,
parce que
je
je dis
crois.
pas de bêtises. 580, un truc comme ça.
Oui, non, mais enfin, en français, je pense que c'était les Batman, donc chez Panini, 4, 5, 6, 7, et puis il y avait, alors malheureusement, des Batman aussi hors série, époque, donc ça devait être le numéro 3 et 4, je crois. Ouais, c'est ça, 3 et 4, qui faisait partie de cette saga Wargames, au fait, où t'as toute l'intégralité, quoi, en français, du coup, si tu trouves ces numéros-là. Ou alors, il y a les TPB VO,
Bien
donc
sûr.
pareil, Wargames est sorti en TPB, Warcrimes aussi.
Alors, par contre, pour ce qui s'agit de Cataclysme, No Man's Land, Nightfall, Night Quest, ça, c'est pas paru en français. Donc déjà, ça, c'est oublié en français. À savoir que No Man's Land est sorti en 5 TPB, qui ne contiennent pas tous les épisodes en entier. C'est-à-dire qu'ils ont fait vraiment un mix des épisodes qui est parlé vraiment de No Man's Land. Donc on avait des épisodes de la série Catwoman par exemple qui traitaient de No Man's Land, mais donc tout l'épisode n'était pas sur No Man's Land, on a juste les passages sur No Man's Land. C'est-à-dire qu'on a des versions un peu tronquées mais qui ne se concentrent que sur cette saga. C'est une saga d'ailleurs énorme, hein. 5 TPB c'est quand même...
Et oui, bah c'était un événement comparable à la saga du clone, ça a duré, je pense, une bonne année. Hein.
Ça a duré un an,
Un an.
un peu plus d'un an même.
Ouais, donc voilà, une saga colossale, 5 TPB VO que j'ai lu, qui donc c'est du tout bon. Bon, mais par contre, c'est de la
Ça
VO.
traîne un petit peu en longueur quand même, je trouve, sur la fin, mais bon.
Ah, moi j'ai trouvé que c'était certaines parties,
Ah,
ouais, au
il y a
milieu.
certaines parties qui sont meilleures que d'autres, il y a des
Ouais.
épisodes un peu plus chiants, autant le dire
C'est
clairement.
vrai, ouais.
Mais c'est comme dans toute grande saga qui dure des mois et des mois, il y a toujours des passages plus lents et plus emmerdants que d'autres.
Non mais le postulat de base était tellement génial que franchement c'est un truc à lire.
C'est le même reproche sur Nightfall, Night Quest.
Alors là je suis beaucoup moins fan.
Nightfall est, je trouve, pas mal du tout. Night Quest traîne beaucoup plus en longueur.
Ouais, mais je pense que cette saga Nightfall Night Quest est bien plus dispensable puisque finalement ça va aboutir surtout à la création d'un personnage qui est
Azrael, oui.
Azrael. Et puis finalement ce personnage va disparaître avec les années, on le
Et
revoit de temps
puis
en temps.
non, et puis il y a quand même aussi la toute suite de Night Quest qui s'appelle Prodigal, qui est la première fois où Dick Grayson endosse le costume de Batman.
Ça, par contre, c'est beaucoup plus intéressant.
Voilà.
Donc, à
C'est
la rigueur, tu peux te
un
prendre
arc en
Prodigal, tu dis Prodigal?
12, oui, Prodigal.
D'accord.
Je crois que c'est un arc en 10 ou 12, 12, je crois.
Oui, enfin, c'est beaucoup plus court que Night Quest et Nightfall, ça, c'est sûr. Donc, voilà. Donc, ça, c'est intéressant, à la rigueur, effectivement.
Ensuite, sur les séries Robin, Nightwing, Catwoman et autres, bah après ça dépend des goûts, quoi. Il y a des passages qui sont plus ou moins bien. C'est comme, bah, c'est les séries dérivées de séries principales, hein. Il y a des choses qui sont sympas, il y a des choses qui sont moins bonnes. On a des scénaristes moins prestigieux, disons, que sur
Oh,
la
bah il y a quand même
grosse
eu
franchise.
Watchman il y a quelques années sur
Oui,
Nightwing, je
non, mais je veux
crois.
dire, dans l'ensemble, si on prend l'ensemble de la série, il y a eu des passages avec des scénaristes moins prestigieux, mais c'est pas pour autant que c'est plus mauvais, hein, loin de là. Nightwing est peut-être plus sombre que Robin, hein, mais moi bon, je sais pas, moi j'ai pas lu les 170 numéros de Robin et les 150 et quelques numéros de Nightwing, j'en ai lu quelques-uns. Dans l'ensemble, c'est pas trop mal.
Mais globalement, je pense hein, que autant Nightwing, Robin que Catwoman, etc., ou Batgirl même, je pense que c'est dispensable. Honnêtement, si
Bah,
tu dois
si tu
faire
veux
des
dire du
choix.
Batman, oui, oui, lis Batman, quoi. Dans les arcs aussi assez importants, bah, t'as tous ces espèces de crossover. Tu as Officer Down, où Gordon se faisait tirer dessus.
Ah, Bruce Wayne Fugitive.
Ouais, Bruce Wayne Murderer, Bruce Wayne Fugitive, ouais, l'espèce de suite.
Ouais.
Donc ouais, il y a pas mal d'arcs assez intéressants hein, sur Batman tout au long de la carrière du Chevalier Noir, mais tous les détailler, ça serait difficile, quoi. Alors, des listes, moi, j'ai pas trouvé de liste. Essaye peut-être de regarder sur Amazon, il y a souvent des gens qui font des listes.
Essaye de regarder aussi sur Comics VF, tout simplement, pour savoir où sont sorties les histoires, si c'est sorti en VF, quoi, certaines.
Oui, ça, c'est très pratique pour arriver à retrouver les
correspondances.
Les correspondances VO-VF. Un très très bon site Comics VF qui existe depuis des années et des années, depuis plus d'une dizaine d'années.
Qui continue à être mis à jour.
Moins fréquemment qu'avant.
Oui, moins fréquemment, c'est vrai.
Tous les 3 à 6 mois, quoi.
Mais quand même, quoi. Le site n'est pas mort, allez-y, et puis voilà, c'est toujours super utile.
Après, dans les sagas de Batman, tu as d'autres sagas aussi qui sont parues un petit peu en Elseworlds. Alors, est-ce que ce qui t'intéresse, c'est la continuité réelle de Batman, ou est-ce que toute histoire de Batman est bonne à prendre? Là, c'est pareil, difficile. Enfin, voilà, on peut pas avoir la réponse au moment.
Si t'as lu Long Halloween, Long Halloween, ça rentre. Mais par contre,
Long Halloween et Dark Victory sont en marge de la continuité.
Ouais, donc si tu les as aimés, c'est quand même...
Voilà, tu as par exemple la trilogie Batman-Dracula de Doug Munch, dont on a pas mal parlé.
Que Steve aime beaucoup.
Voilà.
Enfin, c'est pas mal, hein. Il est sympa.
Tu as Gotham by Gaslight, Master of the Future, la doublette qui vont ensemble, même si Master of Future est un petit peu moins bon que Gotham by Gaslight, ça reste quand même une autre vision de Batman qui est sympa. Après, bon, il y en a pas mal, hein, franchement, il y en a vraiment pas mal. Donc, c'est vrai que sur Batman, il y a de quoi prendre.
Il y a de quoi prendre, il y a des TPB.
Et puis, il y a aussi l'ancienne série Legends of the Dark Knight, qui sortait donc dans les années 90 jusqu'au milieu 2000, jusqu'à 2006, oui. Je crois.
Il y a...
Qui était justement un petit peu en marge de la continuité.
Ah, même totalement, oui.
Ah, des fois, il y avait des parties, par exemple, dans No Man's Land, Legends of the Dark Knight faisait partie de No Man's Land.
Oui, effectivement, oui. Mais, c'était particulier, oui.
Principalement, la série, c'était un auteur qui fait un arc, et l'arc suivant est écrit par un autre auteur. Ce sont des histoires sur Batman qui ne sont pas forcément dans la continuité, qui le sont des fois. Enfin, c'est jamais vraiment... C'est pas dans le présent, en tout cas. C'est pas quelque chose qui va avoir une conséquence directe sur le prochain épisode de Batman, mais il y a des très bonnes histoires avec beaucoup d'auteurs prestigieux qui sont passés.
Oui,
et ça, tu peux en trouver aussi. Alors si tu cherches toujours dans les back issues, dans les Batman Legends, je crois que ça s'appelait à l'époque chez Scénic.
Ouais, mais il y en a eu 3 ou 4 hein, à l'époque.
Il y a eu 5 numéros de Batman Legends.
5 numéros. Enfin bon, cela dit, ça donne déjà un bon aperçu de ce qui se faisait à l'époque en termes de Batman.
Et c'était vraiment sympa, quoi.
Mm.
Voilà. Donc j'espère qu'on a bien répondu à ta question, et puis n'hésite pas à nous dire si tu veux encore d'autres précisions, ou même si tu as d'autres questions, n'hésite pas. On passe au mail suivant. Un message de Greg qui nous dit « Bonjour à toute équipe, je vous écris simplement pour féliciter pour vos podcasts, mais aussi pour vos vannes moisies. » Et moi aussi, et oui, moi aussi j'aime ça. Sans rire,
nous aussi on s'en félicite.
Sans rire, je ne lis jamais aucun comic, hormis Walking Dead que j'ai commencé il y a 2 jours. Et pourtant, j'ai écouté toutes vos émissions qui sont vraiment intéressantes. J'ai beaucoup aimé le podcast avec Cab Chronicle, c'était vraiment sympa. À quand le prochain? Bah, il est déjà sorti, ça y est. Voilà, c'était le Comic City Chronicles numéro 1 qui est sorti.
Un peu différent. Oui, plus sérieux, dirons-nous.
Plus sérieux. C'est pas à exclure qu'on refasse des podcasts un peu moins sérieux. Peut-être que certains débats s'y prêteront aussi.
Bien sûr.
En tout cas, encore bravo pour vos émissions qui sont vraiment géniales, continuez comme ça. Petite question pour finir, à votre avis, en cas de bagarre générale, quel super-héros ou vilain gagnerait la bagarre? Moi je dis Batman défonce tout, et vous? Eh bien, Greg, c'est une difficile question.
Alors là, je veux dire, à la rigueur, si Superman peut, à mon avis, détruire la Terre en un coup de poing, mais le fera-t-il?
Oui. En même temps, on a des personnages ultra, ultra puissants, comme le Spectre, chez DC.
Mais comme dirait Greg, hein, c'est ça, hein?
Greg, oui, c'est ça.
Comme dirait Greg, Batman est tellement intelligent qu'il arrive souvent à manipuler les gens, et donc il pourrait prendre contrôle des gars les plus puissants et donc remporter la bataille.
Mais quid des personnages comme Galactus, par exemple, qui sont plus des entités, ou même tout simplement Infinity, Eternity, ce genre de personnages-là chez Marvel.
D'ailleurs, on se demande pourquoi Galactus n'a pas encore tout bouffé.
Parce qu'il se fait défoncer la gueule par les 4 Fantastiques à chaque fois.
Ouais. Bah alors tu vois, donc il est pas si puissant que ça, ce Galactus. C'est un petit joueur, en fait.
Oui, mais dans une baston générale, peut-être passer inaperçu.
On se cache derrière un truc qui s'appelle Royal Rumble, tout simplement.
Bah, Wizard avait fait pas mal de fois ce genre de choses dans le magazine. Souvent, ils faisaient des espèces de grands tournois général entre tous les personnages, et les lecteurs votaient pourrait lire celui qui gagne.
Ah oui, je me rappelle, oui, effectivement, oui.
Donc c'est difficile, c'est selon l'appréciation de chacun. Bon, c'est sûr qu'effectivement des personnages comme par exemple Moon Knight ou je ne sais pas moi Booster Gold, ce genre de petit personnage-là n'a aucune chance.
Oh, qui c'est, un Booster Gold, il serait capable de gagner.
Ouais, en maîtrisant le retour dans le passé, effectivement.
Si 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 oui non, si non moi je dirais plutôt le Grizzly
Mais après tout, finalement, avec un personnage comme Lobo qui peut se reconstituer à partir d'une cellule, est-ce que ce serait pas lui qui serait vainqueur au final?
Alors, de toute façon il y a tellement de personnages qu'il faudrait tous les passer en revue donc on est encore là dans 3 semaines je pense à peu près à la même heure, donc rendez-vous dans 3 semaines pour avoir notre réponse.
N'hésitez pas vous aussi les auditeurs à nous donner votre avis qui pourrait gagner dans une
qui est
bataille
le plus
comme
fort
ça.
Entre l'hippopotame et l'éléphant? Parce que
Exactement.
l'hippopotame il est quand même très fort.
C'est toujours très marrant, je trouve, d'essayer d'imaginer une espèce de grosse baston comme ça. Sinon, je te encourage à lire peut-être la série DC versus Marvel.
Qui était bonne ou pas alors?
Oh, bon, je sais pas, c'était un bon délire, quoi. Où, justement, tu avais un joli baston comme ça, entre personnages DC et Marvel. Bon, après, il y a eu Amalgam, mais c'était un peu moins bon. Mais c'est pas...
Bon, c'était même carrément mauvais, on va dire.
Bien, on passe au dernier mail. C'est un mail de Vinsouz qui nous a écrit un très 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 long mail. Il est tellement long qu'on va pas le lire à l'antenne parce qu'on en aurait pour très longtemps.
Un pavé, un roman.
En tout cas, merci, ça fait vraiment vraiment plaisir.
Oui, c'est ça fait chaud au cœur de recevoir un message pareil. D'ailleurs, bah, je sais pas, peut-être pourrions-nous à la rigueur le publier dans les coms. Peut-être.
Dans les coms, ici,
pour que, comme ça, au moins, les gens auront les questions en même temps que les réponses.
Bah, on verra. Vinsouz, dis-nous si,
si tu veux bien, quoi. Ouais, surtout.
Il nous explique un petit peu qu'il a commencé les comics, il y a un peu plus d'un an, que les choses qui l'intéressent, c'est plutôt, l'art graphique en général. Mm-hmm. Avant, il était plutôt manga et BD française, et puis, il a aussi élargi un petit peu ses horizons, donc il a découvert le comics. Il suit principalement les choses plutôt librairie et non kiosque. Donc ses préférences sont surtout polar avec des ambiances et des scénarios très sombres. Mais il peut aussi aimer ce qui est plutôt original et décalé tant que ça reste possible. Ah oui, ouais. C'est vrai qu'avec le milieu des super-héros, c'est plus difficile. Donc il nous dit qu'il lit principalement 3 séries VF, Daredevil, Walking Dead et Spawn.
Donc c'est 3 trucs quand même assez différents, faut dire.
Ouais, sinon il est plutôt one shot ou mini série. J'ai pu aussi lire les derniers grands crossovers Marvel, Civil War, Secret Invasion, Dark Reign, etc. Et donc grosso modo, il nous demande si on ne trouve pas que plus les années passent, plus le concept de l'univers Marvel se dégrade. Il nous dit qu'il ne connaît pas assez l'univers DC pour juger.
Bah, le concept non, mais en tout cas l'inspiration des différents auteurs oui. C'est-à-dire la matière est là. Au fait, on pourrait avoir de bonnes choses. Mais je sais pas, on a l'impression qu'on tourne en rond et que il y a de plus en plus des ventes qui s'éventent justement très vite et qui se succèdent trop vite.
Son autre question c'est suis-je le seul à trouver qu'il y a trop de super-héros différents au sein du même monde et qu'au final cet univers est totalement incohérent. Donc ensuite il nous explique un petit peu ce qui le gêne hein, vraiment dans le comics, bah, notamment la résurrection de certains héros, des voyages temporels, des pactes avec des démons pour y goûter des histoires. Voilà, ça c'est le genre de choses qui le gêne.
Si on se demande de quoi il parle, de Spawn bien sûr.
Exactement. Voilà, on nous vend des soi-disant crossovers qui ont pour but de bouleverser l'univers, mais la preuve en est, dans Civil War, l'une des conséquences majeures c'est la mort de Captain America, et pourtant il y a un Reborn, comme toujours, qui apparaît un peu plus tard. Combien de fois les super-héros ou méchants meurent puis reviennent à la vie et sont remplacés par d'autres personnes. Bref, on change le nom, on garde le costume. Alors, c'est plus vrai chez DC que chez Marvel, ce côté-là, de changer le nom mais garder le costume. Généralement, la personne qui est sous costume chez Marvel reste la même.
Exactement.
S'il est mort, c'est le même qui revient.
Exactement, exactement. Mais, par contre, tu as tout à fait raison, Vinsouz, sur les résurrections intempestives, il y en a de plus en plus. Parce qu'il y a aussi de plus en plus de séries, donc il y a de plus en plus de persos qui sont amenés à disparaître et qui sont amenés forcément à revenir parce que c'est des persos vendeurs dont on peut pas se passer très longtemps. Exemple de Captain America, comme tu le dis. Le problème, c'est qu'en fait, c'est tout le problème du mainstream. Et effectivement, toi qui lis des séries pas forcément mainstream essentiellement, T'as peut-être pas au fait cette comment dire, c'est pas une philosophie, mais c'est enfin nous ça nous dérange plus si tu veux quoi. On a tellement lu d'histoires comme ça que.
T'avouerais que certaines fois ça me casse les couilles, hein.
Oui, non mais
Gentiment.
ça dépend de comment c'est fait aussi. Attention, imaginons que ce soit des chefs-d'œuvre à chaque fois, on se plaindrait pas, mais. Effectivement, bon, malheureusement, c'est pas le cas. Mais voilà, mais ça fait partie, au fait, du folklore. Voilà, c'est vraiment ça. C'est un folklore mainstream, c'est-à-dire, bah oui, dans le mainstream, y a forcément des super-héros qui meurent, des super-héros qui ressuscitent, des personnages dont on sait très bien quand ils meurent qu'ils vont revenir. D'autres, c'est rare d'ailleurs, mais d'autres, on sait très bien qu'ils ne reviendront pas, ou en tout cas, c'est très étonnant quand ils reviennent parce qu'on se dit, oulala.
On a des personnages qui sont morts et qui resteront morts puisque c'est leur fonction première d'être morts.
Exactement.
Des
Par
gens comme
exemple,
par exemple l'oncle Ben.
les parents de Bruce, par exemple aussi. Enfin,
Ouais.
c'est vraiment, et à chaque fois, pour nous faire douter, on nous dit, ah, tiens, peut-être qu'ils vont revenir. Évidemment, finalement, au final, ils n'en reviennent pas parce que ça déconstruit, enfin, ça casserait totalement le mythe, quoi.
Mais par exemple, en termes de super-héros, celui qui ne revient pas, c'est Captain Marvel, de chez Marvel.
Et
Le premier
encore,
Captain
il y a
Marvel.
quelques années, on nous a fait croire qu'il était
On nous a
revenu
fait
pour de bon.
croire, mais c'était un Skrull.
Voilà, et puis est-ce que c'est toujours le même problème? Est-ce que c'était prévu à la base? Ou est-ce qu'on nous a dit finalement c'est un scroll parce que ça fonctionnait pas? Bon, voilà. Mais en tout cas, ça fait partie d'un ensemble. C'est dans le folklore du mainstream, voilà, ces morts et ces résurrections intempestives. Il y a d'autres choses, hein. Il y a bah comme tu disais, hein, il y a quand même les costumes, parce que mine de rien, hors mainstream, il y a quand même pas mal de séries où ils n'ont pas besoin de costumes finalement pour vivre des aventures extraordinaires. Mais
Walking Dead, par exemple.
Walking
Pour citer
Dead.
des séries qui le suit, voilà.
Walking Dead, mais même, je dirais, par exemple, même Incognito, c'est du super-héros, mais ils ont un, enfin, il a un costume, mais c'est vraiment sobre, quoi.
Oui, mais
C'est
c'est
vraiment
parce que
sobre.
c'est pulpy, quoi. Enfin, c'est voilà.
C'est pulpy, mais je veux dire, c'est, ouais, enfin, il ressemble plus à un détective masqué. Enfin, tu vois, c'est pas vraiment le costume. C'est pas Batman, c'est pas Superman. Enfin voilà. Et bah ça aussi, voilà, le costume vraiment flashy, kitsch, ça fait partie de cet univers mainstream de super-héros depuis les années 30-40, quoi. Mais c'est aussi un truc ridicule, mais qu'on accepte quand on ouvre un livre de, quand on lit ouvre un comics. Et bah, c'est pareil avec les résurrections et les morts intempestives.
Il nous dit par exemple, pour continuer sur le fait qu'il trouve qu'il y a trop de super-héros différents, ce qui m'avait attiré, c'était l'idée de multiples séries évoluant au sein d'un même univers. Donc c'est le concept de l'univers partagé, quoi. Au final, c'est du grand n'importe quoi, ça part dans tous les sens. Pour moi, l'univers Marvel serait 1000 fois plus intéressant si des héros disparaissaient définitivement, en laissant place à de nouveaux, en fait. Au final, on aurait des séries beaucoup plus fraîches qui évitent de tourner en rond et des épisodes dépassant les 600. Donc là encore, c'est exactement ce que vous me disiez. C'est sûr que c'est le concept, quoi. Le super-héros est intemporel et immortel, en fait. Donc, puisque si une figure super-héroïque que l'on suit depuis l'enfance meurt, c'est comme un rêve d'enfant qui s'éteint, quoi. On peut pas se permettre de faire ça. Et puis, c'est la machine d'Afrique.
J'aime bien comment tu le disais ça. On pouvait pas se permettre de faire ça. C'est inadmissible, monsieur. C'est la machine à rêve qui meurt.
Donc voilà, et il nous dit aussi, d'ailleurs j'ai pu entendre dans vos podcasts que Bruce Wayne voyage dans le temps, vous verrez ça bientôt en français. Où va-t-on? Batman à la base est un détective évoluant dans une ambiance polar, même si un peu fantastique. Mais là apparemment ça devient limite de la science-fiction.
Eh
Là
ben voilà.
moi je te rejoins parfaitement, je suis pas d'accord du tout avec ça.
Et non, mais moi je suis d'accord avec le fait que c'est tout à fait ça, c'est Lost, en fait, c'est le problème de Lost. Et Grant Morrison nous fait du Lost sur Batman, c'est-à-dire que il transforme un personnage qui à la base était un street level character en un personnage de science-fiction, oui, qui voyage dans le temps, c'est exactement ça, avec des intrigues totalement SF. Effectivement. Donc on accroche ou pas, moi j'accroche pas.
Non plus. Pour terminer, il nous dit en fait ce qui l'énerve principalement, c'est que certaines séries sont vraiment géniales. Il nous cite un exemple Daredevil, mais dans un univers bancal. Et donc du coup, le concept en est mal exploité, car Marvel trouvera toujours une explication pour faire revenir ses héros ou justifier certains événements, tellement son univers est riche. En gros, on fait mourir un héros, mais on sait très bien qu'il va revenir. Résurrection, voyage dans le temps,
C'est un
clone,
petit
magie
peu
diverse,
le,
etc.
oui, c'est un petit peu le problème de Shadowland.
Donc malheureusement, c'est vrai que ça fait vraiment partie du concept du super-héros. Si on veut sortir de ce concept-là avec des résurrections, etc., c'est sûr, il faut se tourner vers l'indé. Et encore, pas toutes les séries, puisque même dans l'indé, on a des séries de super-héros, où on a des résurrections. C'est vraiment le concept du héros qui transcende la mort, quoi. Voilà. Je vois pas de meilleure explication, honnêtement. Même si c'est vrai que, bah, de toute façon, malgré tout, ce sont des boîtes de comics. Leur seul but, c'est pas de faire de bonnes histoires. Leur seul but, c'est de vendre. Donc voilà, c'est pour eux l'intérêt, c'est que le cash rentre. Alors tant mieux si ça fait plaisir au lecteur. Si ça fait pas plaisir au lecteur, eh ben, il faut vite trouver une autre formule pour que ça lui fasse plaisir. Donc si le fait de tuer un personnage fait mal au lecteur, enfin on voit que les ventes baissent avec la mort de ce personnage, eh ben on va le ramener.
Le problème, de toute façon, c'est qu'ils n'écrivent plus vraiment des personnages, ils écrivent des franchises.
Et voilà.
D'ailleurs, ça pourrait faire l'objet d'un débat, parce
Mais
qu'on
oui,
en est là,
mais
quoi.
finalement, c'est vrai que tu nous proposais peut-être idée pour un débat, ce sera peut-être le thème d'un prochain débat de Comic City Chronicles.
Oui, mais voilà, parce que c'est ça, quoi. Vraiment, ils écrivent des franchises et Batman, c'est une franchise, c'est une série de titres, c'est pas un seul titre, c'est vraiment une série de titres. Et le personnage principal de la franchise, c'est Bruce Wayne. Donc, on sait qu'il va revenir. Pareil pour Captain America, pareil pour Spider-Man à l'époque de la saga du clone. C'était Peter Parker. Ça pouvait pas être Ben Reilly. Ou ça pouvait l'être qu'un temps. Voilà.
Alors, disons que DC, lui, avait fait quelques essais à l'époque en tuant Flash pendant Crisis on Infinite Earth, les années 80. Ils avaient tué Barry Allen. Ils ont fait revenir Flash en la personne de Wally West, qui était Kid Flash à l'époque. Et les gens disaient au début, non, voilà, quoi, ramenez-nous Barry Allen, ça marchera jamais, etc. Et finalement, ça a marché quand même. La série a tenu de 87 à 2008.
Oui, c'est un tour de force.
Voilà. Mais c'est vrai que ce côté on change le héros ne marche beaucoup plus chez DC que chez Marvel.
Oui, ben c'est plus dans la tradition de DC, cette
Et finalement,
filiation, cette passation de torches et de costumes.
finalement on pensait que Barry Allen ne reviendrait jamais, et la preuve en est qu'il est revenu et qu'il va reprendre sa place dans une série régulière. De toute façon, vous verrez Flash Rebirth le mois prochain en français. Donc on pensait que franchement il le ramènerait jamais, quoi. À
Ouais,
23 ans de mort.
à mon sens, ils auraient pu s'en passer, en fait. Mais bon.
Ah, je sais pas. Suivant vers quoi ça va aller, quoi. Est-ce que ça vaut le coup ou pas?
Parce que je pense que Geoff Johns aurait pu aussi nous écrire d'aussi bonnes histoires avec Wally West.
Mais
Mais bon, ça.
de même qu'il n'était pas obligé de nous ramener Hal Jordan au départ, puisque Hal Jordan
Ouais.
était Parallax,
Ouais.
et ensuite il était le Spectre.
Enfin,
Il aurait très bien pu rester le Spectre.
cela dit, c'était différent, parce que il n'était pas mort, il était quelqu'un d'autre, disons-nous.
Il était mort, et en fait sa conscience avait été prise par le Spectre, vu qu'il s'était sacrifié à la fin de Zero Hour. Et du coup, c'est vrai qu'on pensait aussi qu'Hal Jordan ne reviendrait pas. Et pourtant, il est revenu, et ça a un succès phénoménal. Enfin, est-ce que le Flash, en tout cas Barry Allen, nous apportera la même chose? On verra bien. Mais comme quoi, des fois, faire revenir un personnage, ça peut être quelque chose de bien. C'est vraiment l'exemple avec Hal Jordan.
Ah oui, totalement, oui. Bah alors,
Mais je pense qu'il faut laisser les personnages morts un petit moment. Là, le personnage qui est mort depuis un bon moment et qu'on n'a pas revu et que j'espère qu'on va pas revoir tôt, c'est le Phénix, par exemple, chez les X-Men.
Ben et surtout, par exemple, Tante May, il aurait fallu la laisser morte, celle-là. On n'aurait pas eu One
Oh,
More.
laisse-la vivre son bonheur avec
On
Jameson
n'aurait pas eu
Senior.
One More Day, on n'aurait pas eu One More Day, il n'aurait pas eu à sauver Tante May, puisqu'elle serait déjà morte depuis belle lurette.
Ouais, mais on n'aurait pas connu le père de Jameson.
Chuchi, on aurait
Et on
pu...
n'aurait pas eu cette fameuse ces fameuses
Santana?
scènes ces
Santana?
fameuses. Ah ouais.
Ah oui, c'est vrai.
Ah,
Oui,
c'est
mais
pas
alors
triste
tout
quand même,
ça pour ça
famille.
quand même, ça fait un sacré
Ah, il y
sacrifice.
a eu des scènes croustillantes avec Jameson et Parker qui s'appellent beau-frère, tu vois. Moi, ça m'a fait rire. Bon, c'est vrai que pour une scène, ça craint, mais bon. Vaut mieux qu'on essaie d'en ressortir un petit côté positif. Ben j'espère, Vinsous, qu'on aura un petit peu répondu à ta question. Je pense qu'on refera le. Qu'on va en faire un débat. Je sais pas quand,
D'ailleurs,
mais
tu as appelé ça la question sans réponse, mais t'as une sacrée réponse là finalement.
oui, donc finalement, effectivement, une petite réponse en tout cas. C'est difficile de dire oui ou non. C'est vraiment. C'est les avantages et les inconvénients, quoi.
C'est vraiment un
Malheureusement.
gros peut-être. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire.
Voilà.
Ça veut rien dire.
Mais je pense qu'on reviendra sur ce sujet lors d'un débat.
Bah
Voilà.
peut-être.
En tout cas, merci à tous pour vos mails et à Goldo pour son message vocal. Ça nous fait vraiment, vraiment plaisir d'avoir un contact avec les auditeurs comme ça qui nous posent des questions, et on essaye de vous donner des réponses.
Et peut-être OLCF d'ailleurs. Peut-être OLCF.
N'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou et à nous poser quelques questions, si vous voulez. Par exemple, pourquoi Bunny?
Pourquoi pas?
Et oui, bah pourquoi pas, mais pourquoi pas Rabbit? Parce que
Français, ça sonne
Jacob,
pas terrible.
tout simplement.
Oh là là, oh
Ouais,
là là.
voilà. J'avais pas fait de vanne miteuse jusqu'à
Ah
présent,
ben alors
donc
là, celle-là,
voilà.
Attends, on va les inscrire en fait.
Dans le livre d'or. On va la graver à leur fin en bas de la statue qui va être à mon effigie. Pourquoi pas Rabbit? Parce que Jacob.
Rabbit Jacob. Putain, mais n'importe quoi. Et franchement, je vais me faire un pseudo Rabbit Jacob, je pense.
Eh, tu veux savoir le pire? C'est que je n'ai même pas honte l'espace d'une seconde. Que dalle.
D'accord.
Je suis un ouf. Donc
Donc
sur ce.
si vous avez des choses à dire sur les blagues de Steve, bah viendez au Lille Comics Festival pour lui dire en face, quoi.
Ouais, ou alors voilà.
Donnez-lui des blagues, racontez-lui un truc drôle.
Venez parler au Lille Comics Festival ou taisez-vous à jamais. Voilà.
Non, non, non.
Selon la formule consacrée.
Pas. Laissez-nous même des messages vocaux. Rappelle le
oui,
numéro,
oui,
Steve.
Oui. Par Skype, vous ajoutez Comic City en contact et vous nous laissez un message. Soit par téléphone, hein, tout simplement, c'est plus facile, c'est moins chiant, on prend le téléphone et on compose le 09 70 440 497.
3,99 francs la minute.
Non, non, que dalle, zéro, c'est un,
on
enfin,
plus
zéro.
De 3 francs, donc
c'est un appel national, donc si par exemple vous avez une box internet, ça ne vous coûte rien. Et si vous n'avez pas de box internet, bah ça vous coûte un appel normal, quoi, tout simplement. Sinon, bah vous pouvez nous laisser des mails, hein, comme l'ont fait Kelua, Greg et Vinsouz, à l'adresse podcast@comiccity.fr, et puis bah les commentaires, hein, pour réagir, pour donner aussi des précisions. N'hésitez pas à donner votre avis sur la fameuse baston que voudrait Greg, sur la complainte de Vinsouz par rapport à l'univers et les héros qui ressuscitent et qui surchargent un petit peu cet univers. On sait qu'il n'y aura aucune conséquence. Sur les critiques aussi, n'hésitez pas à nous laisser votre avis sur les parutions du mois, ou même celles que l'on n'a pas abordées.
Le Marvel Universe, n'importe quoi.
Ou même ceux dont on n'a pas parlé, hein, le Punisher, par exemple, qu'on n'a pas traité ce mois-ci.
Voilà, que je n'ai toujours pas lu, du coup.
Ou le Marvel Heroes Extra 4, je crois, ça va être ça. Enfin, celui avec les Masters of Evil, par exemple. Enfin, voilà. House of M, Masters of Evil. C'était le titre de la mini-série américaine. Bref, voilà, n'hésitez pas. Sur ce, on se retrouve d'ici une quinzaine de jours post Lille Comic Festival. Peut-être qu'il y aura un petit peu de retard pour le prochain. On voudrait bien qu'on risque d'être un petit peu débordé dans les prochains jours. Mais on va essayer de le sortir pas trop tard. Hein. Mais pour le prochain Comic City, il y aura sûrement du retard. Ça sortira pas le 15, c'est clair.
Oui. D'ailleurs, le 15, on devrait être annoncé.
Pas Claire et moi, nous serons sur le trajet du retour.
Voilà, comme ça vous savez tout.
Voilà, puisque en plus du Lille Comics Festival, nous avons un joli concert à Paris le 14.
Ah,
recherche,
dire,
vous saurez ce que c'est, et donc voilà, forcément, nous rentrons que le lundi. Bref, voilà, c'est
et
notre
chez qui, alors, surtout chez qui vous allez pour.
On va crêcher chez Benny, hein, nous verrons bien s'il vit dans un terrier.
Bah exactement.
C'est Coco Lapin.
Oh là là là.
La référence
intime. Mais sur la terre, bah, c'est supplice.
Oui, c'est là on déborde sur le temps et on déborde sur les conneries aussi. Mais c'est de la faute du Père Noël.
C'est tout un art d'arriver.
C'est tout un art d'arriver à faire une conclusion miteuse. Sur ce, on se retrouve d'ici une quinzaine de jours. Si vous n'avez pas eu envie de vous suicider à la fin.
C'est pour ça qu'il n'y avait jamais de conclusion sur mes rédacs.
Et comme d'habitude, d'ici là, soit au LCF, soit sur un prochain podcast. Portez-vous bien.
Ciao.